radio, la radio qui aime trop, les keufs, les schmitts et la volaille. www.libradio.org.
Voilà, c'est notre jingle pour nos amis de la volaille. Voilà, bah, c'est dit dans le jingle, hein, les keufs, les schmitts et la volaille. <C'est> pas... Nous sommes donc le mercredi 13 juin, il est 20h quasiment, 19h50. Nous sommes dans les conditions du direct à la maison de quartier des Paquis, au-dessus de la traverse. La traverse dans laquelle salle il y aura ce soir la soirée ciné-concert organisée par Paquino, le ciné-club Paquino. Au programme du soir, c'est Gibson 5 en concert, de la musique gypsoïde. Et ensuite, un magnifique film, un grand classique de Jacques Tati, qui s'appelle Mon oncle, qui est une histoire sur le postmodernisme d'une certaine manière. Et tout et tout. Alors, ce soir, nous allons faire cette émission en compagnie de deux invités, Chloé et Gérard. Merci d'être là.
Bienvenue. Merci, Will. Bienvenue. Merci.
Alors, on est ravis, hein, comme d'habitude, de vous recevoir. Et alors, le sommaire de cette émission, eh bien, nous allons faire une forme de bilan sur Monnaie Pleine. Et puis, on fera d'autres choses après si on a envie, enfin, un petit peu comme on veut.
Ça marche.
Alors, cette émission, donc, comme elle est enregistrée, elle fera partie d'un bloc cohérent dans lequel on mettra également la conférence que l'on a enregistrée en hispano-français. Ouais, j'essaie l'inverse, mais ça va pas. Il faut dire hispano-français, c'est-à-dire en espagnol et en français. Au silure du mardi 12 juin concernant les fosses, pourrait-on dire les fosses de la mémoire de la guerre d'Espagne, les cadavres des résistants qui sont disséminés et des fois déplacés pour que l'on ne puisse pas y accéder, pour essayer de dénier la mémoire de ces personnes-là, de ces personnes résistantes. C'est encore quelque chose d'extrêmement prégnant en Espagne, puisque c'est au point où des juges qui avaient à l'époque, et je cite Garzón, mais il y en a d'autres, hein, qui à l'époque avaient dit on va aller dans cette mémoire, dans le fait de cultiver cette mémoire sociale, eh bien, ont été démis de leurs fonctions et éloignés vraiment de toutes ces sphères-là pour vraiment empêcher à ce que l'on accède à cette forme de mémoire collective. Alors, l'enregistrement sera prêt et fera partie du bloc de cette émission-là. Et puis, on y ajoutera la conférence à laquelle on va participer vendredi prochain à l'usine Kugler, à partir de 19h, sur le zapatisme. Et là, il s'agit d'une camarade qui s'est rendue dans les communautés zapatistes au Mexique et qui a elle-même, en tant qu'artiste, pratiqué, opéré des ateliers et qui en reviendra avec un témoignage que l'on va enregistrer vendredi et qui fera partie donc de ce segment, de cette capsule, pardon, d'émission. Voilà.
Tout un programme.
Ouais, non, mais c'est pour expliquer le. Parce que là, on fait un peu, c'est un peu un puzzle, et puis c'est sur différents jours.
Mais c'est souvent comme mais... ça. J'adore justement.
Ouais,
ça
je trouve que c'est génial. Mal.
Et puis tout ce qu'on veut.
Et puis clairement, les liens existent entre ce dont on va parler, puisque Monnaie Pleine, c'est aussi redonner la souveraineté aux gens, au peuple, etc., etc. Ouais, ouais. Alors, j'ai envie de dire, est-ce qu'on commence directement? Ça vous va?
Allez, entrons dans le sujet.
Alors, il faudrait quand même rappeler que...
Dans le deuil national que nous allons entamer.
Le 10 juin, tout récent, là, nous votions concernant une initiative populaire fédérale qui s'appelle Monnaie Pleine et qui souhaitait restituer le monopole de la production scripturale à la Banque nationale.
À la Banque nationale et donc, enfin... pour permettre que les bénéfices et le seigneuriage, donc qui est l'avantage financier que la banque, que la création monétaire occasionne, reviennent au peuple.
Voilà.
Et au pouvoir public, disons, au secteur public, quoi, au service public.
Alors, est-ce qu'on commence par énoncer les résultats, disons, aux nationaux?
On peut commencer par la fin. C'est pas mal, je trouve, comme déroulement.
En effet.
Qu'est-ce que t'en penses, Gérard?
Et puis Chloé, elle a tout bien préparé. Donc
non,
elle
mais
va
non,
nous,
mais...
nous expliquer ça.
Si peu.
Fond,
voilà.
Parce qu'il y a
là,
beaucoup de choses sur lesquelles on va revenir. On va parler effectivement des résultats nationaux, des résultats ensuite par canton, en tout cas par région.
Alors, j'ai tous les pourcentages.
Non, mais on va. Voilà, on va se donner une idée. Puis on va parler aussi de comment est-ce qu'on peut expliquer certains résultats, et notamment l'information, comment est-elle relayée, comment ne l'est-elle pas relayée. Les budgets de campagne, enfin voilà, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait quand même un petit peu rebondir.
On ne connaît pas tous les détails en précision, mais on pourra aussi parler du contexte et peut-être des manipulations non seulement rhétorique, mais aussi dans les dépouillements.
Absolument.
Peut-être.
Ouais, ouais. Ok, alors allons-y peut-être avec les résultats. Donc au lendemain du vote, on était un petit peu...
Alors le jour même du vote, déjà, plusieurs médias nous disaient faut surtout pas voter oui, attention, ils nous mettaient en garde. L'argument de la peur a été très très fortement présenté, même imposé par tous les canaux possibles, y compris par les canaux fédéraux, gouvernementaux. Les médias de Tamedia ont très bien fait leur boulot de dissuasion, de propagande anti-monnaie pleine. Et en parallèle, les médias des autres pays, enfin certains médias des autres pays, étaient plutôt favorables à ce qu'on ouvre le chemin de cette création monétaire, de ce déplacement de monopole, de pouvoir, de souveraineté monétaire. Parce qu'en fait, les pays, enfin, disons qu'il y a beaucoup de peuples qui souffrent, la majorité des peuples du monde souffrent de cette création monétaire. Créer donc des banques commerciales, ça c'est quand même le point nouveau qu'a apporté cette initiative. L'information sur qui crée la monnaie scripturale, en fait l'essentiel de la monnaie qu'on manipule au quotidien, donc les banques commerciales. Et on sent bien, tout le monde sent bien qu'il y a un problème avec ça.
Je peux ajouter un
truc.
Mais
vas-y seulement.
Je dirais que c'était impressionnant parce que le Canada, par exemple, ouais, avec François Simontal, qui était, a fait toute une émission. Ils étaient enthousiastes, entre autres, pour notre système de vote, parce que quelque part, pour eux, c'était vraiment une découverte hein, de se trouver devant un pays qui peut voter une loi comme celle-ci. Chloé va la décrire tout à l'heure, mais c'est une loi quand même qui a une vraie influence sur l'économie et qui aurait pu changer très fondamentalement notre rapport aux banques.
Est-ce que c'est une occasion
Alors, juste une chose, il y avait également de l'intérêt en France, puisqu'on a été invité
à l'Assemblée nationale
mm-hmm. pour expliquer monnaie pleine à l'Assemblée nationale française. Hein. Ensuite, petite anecdote, mon frère était en déplacement
En Serbie.
Ouais. Et en Serbie, dans un incroyable, coin tout à fait reculé, avec des paysans qui n'ont pas l'air d'être spécialement au courant de tout, eh bien, s'ils étaient au courant, ils posaient des questions par rapport à cette initiative qu'il y avait en Suisse et le concept de monnaie pleine, parce qu'ils en avaient entendu parler jusqu'au fin fond de la Serbie.
C'est incroyable.
C'est incroyable.
Bah ouais. Est-ce qu'il s'agit pour vous là d'une... C'est une première question un petit peu pour le pavé dans la main. D'une occasion manquée ou pas tant que ça, parce que j'aurais envie de faire une petite analogie avec le RBI,
c'est ça.
Base inconditionnelle,
tout à fait.
Où effectivement les urnes ont décidé. Maintenant, les urnes, jusqu'à quel point elles sont légitimes ou plus
voilà.
ou moins.
Ça, on n'a pas tout à fait le contrôle là-dessus.
Voilà. Hein. Mais quoi qu'il en soit, l'alerte a été quand même lancée et effectivement, on ne sait pas ce que ça va donner, mais quelque chose, ça va donner. Il va en ressortir quelque chose.
Ce que je dis toujours, c'est que il n'y a que quand on ne fait rien que rien ne se passe. Toutes les graines qu'on peut semer de toutes les façons possibles, elles germent un jour ou l'autre. Et là, je trouve qu'un score de 24,3% national, même s'il y a eu de la manipulation, justement, d'autant plus qu'il y a eu de la manipulation et peut-être de la triche, c'est quand même honorable. Ça a été un peu mieux que pour le RBI, il y avait eu 23%. Pour une première, tu vois, sur la création monétaire, c'est juste incroyable.
Et dont on sait que ça a été rendu compliqué par les médias, en disant que c'est un sujet trop complexe, laissez tomber, votez comme on vous le dit.
La peur a été vraiment propagée dans toutes les couches de la population. Donc, malgré ça, on a réussi à faire un quart de vote pour le oui.
Est-ce qu'on voit...
Un des thèmes de la campagne contre monnaie pleine, c'est dangereux, il y a des risques de se lancer dans une expérience comme celle-ci. Je répondais à chaque fois, je pense que je n'ai pas été entendu complètement, mais enfin,
si,
je répondais à chaque
fois,
le risque, c'est le système actuel.
Oui, clairement.
Je veux dire, est-ce qu'il y a eu des changements fondamentaux depuis la crise des subprimes ? Sérieusement ?
Non, bah oui, clairement.
À part le... Encore, ça c'est un miroir aux alouettes, la soi-disant hausse de la garantie bancaire qui est passée de 30 000 francs suisses à 100 000 francs suisses. Tu sais, maintenant, tout le monde, on entend partout, oui, vous inquiétez pas, si vous avez moins de 100 000 francs suisses, il est à l'abri, votre argent. Il est garanti, sauf que peut-être tout le monde ne le sait pas, mais le fonds de garantie, il est de 3 milliards de francs. Et que la masse monétaire M3, pour les puristes, elle est de 1100 ou 1045 milliards. Donc voilà quoi. Ouais. Bon. 3 milliards pour 1045 milliards, ça fait du 0,34 à peu près pour cent.
Ouais. Est-ce qu'on a observé...
0,16.
Ouais. Alors on va revenir après aux résultats, puis on va les détailler un petit peu. Mais est-ce qu'on observe, pour vraiment tracer les contours généraux déjà, un Röstigraben ou alors un Röstigraben différent entre les ruraux et les urbains, voilà, est-ce qu'on peut démarquer des zones, alors, ou est-ce que c'est quand même...
J'ai pas remarqué personnellement de différence, à part à Genève. Hein, ouais, bien sûr, le canton de Genève, on a fait presque le double... des scores de partout ailleurs.
Ouais,
on formidable. Est à 40,3 officiellement, donc moi je pense qu'on est à plus de 50 en fait, parce que ce qu'on a vu juste le jour de la votation, vers les 15h comme ça, il y avait plein de journaux, les journaux qui ont eu des dépêches de l'ATS, tu sais,
le matin,
télégraphique suisse, qui disaient que la ville de Genève déjà avait voté oui. Et on a des captures d'écran, on a des preuves.
D'accord.
Et juste après, vers les 17h, ça a été tout rectifié. Non, non, tout le monde a voté, non, balayé l'initiative, etc. Alors, je me demande quand même, tiens.
Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, 40%, c'est
non,
énorme.
Non, c'est juste énorme.
C'est énorme.
40,3.
Alors, ouais. Comment est-ce que vous expliquez cette disparité entre Genève et puis le reste de la Suisse? Parce qu'on peut faire un pays
en
ici.
En toute modestie, je pense qu'on a bien bossé à Genève.
Non, mais ouais, bah,
exactement. Et encore, je pense qu'on aurait pu encore bosser mieux.
Oui.
Mais bon.
On a fait des cafés citoyens, on a été... On a donné des tracts à la sortie du spectacle Fric, là, la semaine dernière. Il y a eu des stands, il y a eu énormément de choses qui ont été déployées, les affiches. On a eu 4 emplacements d'affiches, donc ça fait 4 fois plus que normalement.
Est-ce à dire que si les informations parviennent aux gens,
mais oui.
Eh bien, les gens votent d'une manière éclairée et peut-être différemment que ce à quoi on s'attend.
Exactement. Et puis la deuxième partie de ça, c'est qu'en fait, les gens... La grande majorité des votants n'étaient pas du tout au courant, ne serait-ce qu'un mois avant, de quoi il s'agissait.
Ouais. Et en fait, je crois
ça
qu'on
veut
a...
dire qu'on ouais. on avait un énorme travail pédagogique à faire pour expliquer d'information.
Ouais.
Et en fait, c'est quand même gagné, hein, parce que quelque part... La fameuse création monétaire dont on va
c'est
certainement
ça.
Parler.
La bataille
là,
de l'information.
Eh bien,
elle est gagnée.
Il y a quelques années, même nos amis de gauche,
il y a deux ans,
de parti, etc., nous prenaient pour des extraterrestres.
Ouais. Et puis, on a vraiment la preuve suprême, entre guillemets, la preuve médiatique suprême, parce qu'il faut passer à la télé pour être vrai, hein, tu sais, les vérités,
oui,
c'est comme
ça.
Il faut le stempel, quoi.
Voilà.
Et ben, c'est celle de Darius Rochevin, donc c'était quand lundi dernier, non
ouais,
je sais plus, ça. La semaine dernière, qui a donc rectifié les informations fausses qui avaient été données par le Conseil fédéral, entre autres, que, concernant la création monétaire. Donc il a dit clairement que les banques commerciales sont celles qui créent la monnaie scripturale pour faire des crédits et pour acheter des actifs. Donc, je veux dire, c'est ça l'essentiel,
ouais,
tu vois.
Ouais, ouais,
c'est le cœur de la
et
campagne.
Et ça a passé, ça a passé.
Bah, évidemment que ça a passé, vu que c'est ça.
Ouais, ouais.
La vérité est enfin dévoilée, en tout cas sur la création monétaire. Ça, c'est juste énorme.
C'est énorme, effectivement. Ouais. On voit que, alors à Genève, par ailleurs, nous, on a pu quand même se renseigner et on voit qu'il y a un corporatisme exacerbé, notamment dans le secteur bancaire. Et nous, on a pu avoir, sous couvert de l'anonymat, bien entendu, des bouts de témoignages comme ça de gens qui disaient qu'effectivement, à leur boulot, ça rigolait pas, qu'ils étaient... Alors que là, l'injonction, elle était claire et précise, qu'il fallait
c'était
jamais...
C'était non, voilà. Et puis c'est tout. Puis si t'es voilà. Oui, tu dis quand même non, quoi.
Exactement.
Sinon, t'es viré. Non,
voilà. Non
ça,
mais c'est exactement ça. C'est impressionnant. Et je me dis que ça veut dire que ce sont ces personnes-là qui y travaillent, leurs familles qui sont également contraintes. Où on en est en termes de démocratie et de
c'est
liberté
ça. Est-on
de...
Est-on encore un état de droit ?
À un moment
dire
donné,
que...
ouais.
Ou un état de droit du plus fort, ou je ne sais pas. Comment on peut redéfinir ouais.
C'est, en tout cas,
le système politique.
On s'aperçoit que le vernis craquelle quand même.
Oui, ça c'est un autre avantage.
Voilà,
on a pu voir les intérêts, les pressions... Les manipulations, beaucoup plus clairement encore que d'habitude.
Ouais. ça, vous pensez que c'est quelque chose, justement, on dit, le phare se craquelle un petit peu, ouais. Des choses se dévoilent, mais le problème, c'est que, est-ce que c'est suffisant encore, est-ce qu'il faut, comment réagissent les gens à ça? Parce qu'après, on a de nouveau toute cette campagne qui disent, oui, mais en fait, non, vous faites du complotisme ou quoi, alors qu'en fait, on voit que des bouts de vérité, quand même, émergent, et que, comme vous l'avez vous-même très bien fait, les preuves sont là, il ne s'agit plus de fantasmes ou de je ne sais quoi, il s'agit vraiment de réalité.
Alors moi je pense qu'on se confronte de nouveau au frein du conformisme, de la peur de l'inconnu, de l'obéissance aux autorités, l'obéissance à l'autorité, tu sais. L'obéissance en fait est très présente chez le peuple, en tout cas suisse à mon avis, et puis un peu partout. Il y a cette peur de se distinguer, de sortir du groupe, de dire différent de la majorité, de contredire notre Conseil fédéral, notre gouvernement, de sortir du système actuel qu'on connaît. Puis alors, de l'inconnu, ça fait peut-être peur, tu vois, même si c'est pour un mieux. Il y a un peu le syndrome de Stockholm, moi, je trouve.
D'accord.
Ce genre de situation.
Et c'est à mettre en relation avec cette envie qui ont nos voisins, par exemple français, par rapport à cette possibilité de voter sur des sujets comme celui-ci, et puis qui nous envient parce qu'ils ont l'impression que eux, s'ils avaient cette possibilité-là, eh bien, ils l'utiliseraient à fond pour changer les choses. Et en fait, la Suisse.
Alors moi, je pense qu'en France, ils sont dans un état avec la macronictature actuelle, un peu plus conscient des problèmes et des enjeux. Je pense que nous, on n'est peut-être pas encore assez dans la mouise pour avoir une profonde envie de changer qui soit plus forte que la peur de changer.
C'est vrai.
Peut-être, mais est-ce qu'il n'y a pas également un verrouillage en Suisse qui est encore plus fort qu'ailleurs en Europe? Je dis ça parce qu'on a assisté à ça lorsque Libradio s'est beaucoup intéressé, continue de s'intéresser aux augmentations des primes d'assurance maladie, où notamment les discussions qui étaient commises par les deux personnes qui sont un petit peu les organisatrices d'un collectif qui se bat contre ça, parlaient de collusion évidente et indubitable entre des politiques, personnes...
C'est complètement le cas.
Voilà. Et on a ces collusions et on a l'impression que ces collusions font qu'on verrouille des sujets complètement et que du coup, l'information, elle n'arrive pas et que quoi qu'il en soit, on n'arrive jamais à faire sauter le bouchon.
On accède au pouvoir, et ça c'est vrai aussi aux petites échelles dans les entreprises, que les personnes qui sont d'accord avec le pouvoir en place. Et ça c'est vraiment valable aussi bien pour les conseillers nationaux, pour les conseillers fédéraux par exemple, qui ensuite mangent à la soupe, Ils sont financés par les milieux bancaires, par les milieux mondialistes, des multinationales et tout ça.
Ouais.
Donc ils restent entre eux. C'est un entre-soi qui s'entretient.
Et ça, vous pensez que d'une manière ou d'une autre, comment est-ce qu'on en sort? En dévoilant les choses
Par les lanceurs d'alerte qui sont très mal protégés en Suisse ailleurs.
Ouais.
Mais pour moi, ça passera par des gens qui osent dire des vérités qui dérangent et dévoiler des secrets. Institutionnel.
Et là, on en revient justement, en tout cas, les quelques banquiers qu'on a pu écouter et qui nous ont dit qu'effectivement, ça n'allait pas du tout, que tout le monde en était très conscient, mais que justement, il fallait justement le taire.
Mais ça fait plaisir d'entendre ça. Moi, je pensais qu'ils étaient encore en allégeance complète à leurs employeurs. J'ai l'impression que ça craque un petit peu.
Oui, c'est ça.
Moi, je pense que
ça exactement. Ça se fragilise, en tout cas. Il n'y a plus cette espèce de... Après, ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, on arrive à imposer un rapport de force qui permette quelque chose, parce que les parades vont également arriver.
Mais il faut y croire. Il faut y croire.
Moi, je pense qu'il faut commencer. Enfin, il faut. J'aime pas dire commençons par y croire nous-mêmes et à faire comme si ça allait se faire. Parce que c'est comme ça qu'on programme la réussite. En s'auto-censurant ou en n'y croyant pas, on s'auto-sabote, on peut programmer l'échec, malheureusement. Donc. Allons-y,
Ouais, absolument.
Et puis les révolutions, c'est comme ça qu'elles sont faites. Enfin, les révolutions, en tout cas, ce qu'on appelle les acquis sociaux, qui sont en fait des conquis sociaux, comme les congés, les vacances payées, la semaine de 40 heures ou 42 heures, la VS, le vote des femmes, etc. On les a arrachés, je veux dire. On ne les a pas donnés sur un plateau, donc c'est en y allant,
Et puis, on peut dire qu'effectivement, concernant également la monnaie, d'une certaine manière, on a de plus en plus de voix qui s'élèvent en disant « Attendez, le too big to fail, ça suffit. » Quand même, ça, c'est resté
c'est ça.
Alors, de la campagne monnaie pleine.
Mais exactement. Alors, c'est quoi ces banques qui disent qu'elles prennent des risques et puis que finalement, elles sont sauvées quand ça ne va pas ?
Exactement.
Face, je gagne, pile, tu perds, quoi.
Là, il y a une forme d'impunité également, c'est assez impressionnant. Hein.
En sachant aussi que leurs amendes sont déduites des impôts, par exemple. C'est intéressant aussi, ça, je l'ai appris, tu sais, il y a un an ou deux, là. Le truc, comme si nous, alors nos PV et puis nos contraventions, on pouvait les enlever des impôts.
Ce serait bien. Hein.
Ce serait bien. Hein.
Ouais, on serait tous très
non
contents.
Non seulement ils créent la monnaie comme ça, puis en plus ils peuvent déduire toutes leurs pénalités, toutes leurs amendes. C'est magnifique.
Complètement génial.
Alors on va.
Et en plus, t'es allé sur 5 ans, c'est que
Ah oui, c'est vrai. Bon, comme écoute. Ça, s'ils ont pas les sous sur le moment, c'est pas grave.
Alors du coup, là, ça nous permet de citer qu'il y a cette initiative encore sur la BCGE pour que Nom de Bleu.
Pour qu'ils rendent le pognon, Nom de Bleu. 3,2 milliards avec les intérêts. Bah oui, ils y tiennent à leurs intérêts. Donc on va la faire piller aussi dans l'autre sens, il n'y a pas de raison.
D'ailleurs, dans l'initiative, tu as vu, c'est étalé sur 30 ans quand même la restitution.
Oh, punaise, on est sympa, quoi.
T'es d'accord.
Parce que eux, quand ils réclament des AGO ou je sais pas quoi, c'est tout de suite. Hein.
Exactement. Donc voilà, la BCGE, il faut qu'elle rende ses sous. Ça veut dire qu'il faut signer cette initiative. On la trouve sur beaucoup de sites internet, notamment celui d'Ensemble à gauche et de Solidarité. Pour
elle est jusque quand? Tu sais quand c'est?
Justement, c'est urgent. Je crois que c'est la fin de la semaine prochaine, aïe, si je ne me trompe pas. Donc il faut s'agiter.
C'est pas la zéro perte aussi la semaine prochaine?
Alors exactement.
Parce
zéro.
Deux initiatives en...
Il y a zéro perte et puis il y a 23 francs aussi qui est pour bientôt.
C'est déjà quoi?
Alors,
c'est 23 francs, c'est tout bon, c'est signé.
Ah oui, c'est vrai, pardon.
Ça a été déposé et puis zéro perte, un mois, il reste encore de campagne de récolte.
Ouais.
Les 23 francs, c'est le salaire minimum par heure. Hein. Ok, donc ça rejoint le salaire minimum minimal de 4000 francs qu'on avait...
À l'époque.
Voté, ouais. Il y a deux... Non, ouais. Il y a 4 ans, je crois, c'était en 2014.
Ouais, je crois que c'était... Ouais, mm-hmm. Exactement. Ben voilà, ça veut dire que voilà, ces choses-là, elles émergent, elles sont aussi quelque part les enfants de monnaie pleine, en tout cas dans la conscience des gens. Et si peut-être que l'une ou l'autre de ces initiatives passe, ce sera certainement aussi parce que l'information est passée au travers, ouais, par le biais, par le vecteur de monnaie pleine.
Ouais, donc tu disais justement comment faire pour s'en sortir. Oui. Moi, je pense vraiment que c'est l'information. Mmh. Et la masse critique, tu sais, le nombre de personnes qui sont convaincues et donc convaincantes. Et pour des personnes qui ont peur de bouger, plus il y a de gens qui ont envie d'aller dans ce sens-là, plus ils se sentiront légitimes à y aller en confort, tu vois, en confiance.
Bien sûr, ouais, tout à fait.
Absolument.
Ouais. Alors, monnaie pleine et ensuite, qu'est-ce que vous aurez envie de répondre à ça?
Alors, il y a tellement de choses.
Mais je veux dire, parce que la question, en fait, elle a deux volets. Elle a très concrètement, à quoi faut-il s'attendre selon vous? Voilà, parce qu'on peut très bien imaginer une sorte de
contre-campagne.
De contre-campagne, en disant, voilà, c'est-à-dire que ouais, le peuple a voté, on est légitime. Vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où...
Mais je pense qu'ils n'oseront pas, parce qu'ils sentent bien
Genève,
que...
Ouais,
alors, je ne sais pas ailleurs, mais effectivement, ça... ici, ça ne passerait pas. Leur cynisme, là, ne serait pas entendu, hein. Parce que là, il y a quand même eu une prise de conscience, et même dans les différentes émissions, même dans les articles, qui étaient contre monnaie pleine, il était vraiment dit que le système actuel n'était pas correct et que la population, la société civile n'était pas en confiance avec les banques et avec le système. Mmh. Donc là-dessus, je ne pense pas qu'ils oseront. Tu vois.
D'accord. Ben, j'espère, en tout cas.
S'ils osent, on se rappellera leur bon souvenir. Hein.
Absolument, oui, tout à fait. Donc voilà, la question c'était ça, très concrètement. Et puis ensuite, dans les idées, effectivement, on s'aperçoit que les gens sont de plus en plus matures, sont de plus mûrs. Est-ce que là, il y a moyen, selon vous, de revenir sur des choses qui pourraient englober le salaire à vie, le RBI, des choses comme ça. On a vu que le RBI, il va y avoir une expérimentation qui a à peine commencé. Alors, nous, on a le cas d'un village qui est à la frontière, Chafouze,
okay,
et près du lac de Constance, dont on va parler normalement la semaine prochaine à la Saint-Jean, à la ville d'Étavoy Saint-Jean. On va essayer en tout cas. Où là, une petite commune a mis en place, ils expérimentent et ça a commencé.
Ça a commencé déjà ?
Ça a commencé déjà, ouais. Alors voilà, parce que je pense que les gens de plus en plus sont prêts et appellent de leur vœu un truc.
Un changement avant la prochaine déferlante, quoi.
Ben, c'est ça.
Parce que par exemple, il y a. Enfin, moi j'ai entendu, je ne sais pas si Gérard, tu te souviens, on a entendu récemment, il me semble, que Jean Suder ou Thomas Jordan, l'un des deux de la BNS, allait proposer quelque chose du type. La possibilité que tous les citoyens puissent avoir un compte à la Banque Nationale. Parce qu'actuellement, mm-hmm, ce n'est pas le cas.
Je crois que c'est Jordan.
Et
hein.
Peut-être on peut rappeler ce que représente en fait avoir un compte scriptural, donc de monnaie électronique à la Banque Nationale. Ce serait d'avoir une monnaie légale qui n'est pas englobée dans une faillite bancaire ou dans les crises.
Ouais.
Parce qu'actuellement, la seule monnaie pleine, en fait, la monnaie légale, c'est simplement un autre nom pour dire monnaie pleine, c'est nos pièces et nos billets. La seule monnaie pleine, la seule monnaie légale dont nous, citoyens, citoyennes, nous bénéficions. Mais il y a aussi une monnaie légale pleine qui existe à la Banque nationale pour les banques. C'est-à-dire que toutes les banques ont un compte en monnaie pleine, en monnaie légale, à la Banque nationale, et elles s'échangent entre elles que de la monnaie pleine. Donc elles disent, tu sais, la propagande qui disait non, mais fonctionner avec de la monnaie pleine, c'est dangereux, c'est inédit, on ne connaît pas, c'est plongé dans l'inconnu, alors qu'elles, elles font que ça, en fait.
Absolument.
Et ça marche plutôt bien, elles ne risquent pas de perdre leur argent, pour le coup. Donc ça serait bien, tu vois, qu'on puisse aussi avoir le choix, et c'est ce que proposait Monnaie Pleine, d'avoir soit de la monnaie pleine, donc la monnaie à la Banque nationale, la monnaie légale, soit de la monnaie pas pleine, mais de la monnaie risquée, de la monnaie qui puisse rapporter, mais aussi perdre. Comme on a actuellement, en fait, tous. Mmh. Et on n'a juste pas le choix.
Ouais.
Voilà, donc la différence. Et puis, ça, c'est une avancée possible.
On pourrait imaginer aussi des banques populaires qui ont d'autres fondamentaux que les banques commerciales habituelles. Hein, c'est peut-être pas exclu, ça.
Oui, et puis on a aussi appris quelque chose, c'était dimanche, qu'il y aurait un changement de la part de la FINMA, je pense, pour la réglementation des banques, c'est-à-dire qu'actuellement, il faut plusieurs millions de francs pour pouvoir ouvrir une banque, et ça passerait à 300 000 francs, donc plus accessible. Donc on s'est dit, pourquoi pas créer une banque coopérative avec 300 000 francs crowdfunding quelconque. Donc ça, c'est une possibilité. Et puis, il y a une deuxième chose aussi dont je voulais parler. C'était une pétition qui a été faite par Bernard Dugas, qui fait partie de notre groupe, tu sais, des AAA+, l'actionnaire de la Banque nationale, pour créer un fonds souverain à la Banque nationale sur lequel on puisse voter, tous les citoyens et les citoyennes, pour savoir à qui attribuer, à quel projet attribuer cette monnaie-là, tu vois. Donc ça, c'est en cours de signature,
entre autres pour l'innovation. Dans ce
on peut trouver. Ouais, voilà, bon, ça, c'est le titre. En fait, le titre, c'est Votons la monnaie pour innover. Je trouve.
Ouais, bon. Pas mal, pas mal.
On trouve ça sur le site des AAA positifs. Donc vous tapez AAA positif en minuscule et puis vous tombez dessus en premier.
Très bien, très bien. Voilà. J'avais une petite question un petit peu comme ça, finalement cosmétique, mais quand même.
Excuse-moi, on a laissé tomber quelque chose. Merci.
Est-ce que vous avez eu vent d'une prise de position éventuelle ou pas de la BAS, de la banque alternative?
J'ai cru comprendre qu'ils étaient contre. Mais en fait, ils fonctionnent comme une banque maintenant. On dirait qu'ils sont un peu partis à la dérive depuis quelques années.
On a quelques déceptions par rapport à cette banque.
Ça reste une banque,
ils créent de la monnaie de la même façon. Voilà. Alors ils disent qu'ils... Ils investissent dans des projets éthiques, durables, etc. Mais on a appris notamment qu'ils avaient bloqué les comptes des personnes qui voulaient retirer trop d'argent ou des personnes qui... je ne sais plus exactement les tenants et aboutissants, mais c'était déjà il y a un an. Ils ont bloqué les comptes pendant un certain temps. Enfin, c'était un peu bizarre.
Et la maison des associations, qui cherche toujours un peu d'argent, a eu quelques ennuis avec la BAS parce qu'ils avaient justement compté sur elle pour des financements, et puis ça se passe pas très bien.
D'accord. Mais parce que voilà, on avait aussi ces retours un petit peu mi-figue, mi-raisin. Exactement. Donc c'est pour ça que je vous posais la question. Alors, le regard extérieur, je voulais qu'on fasse un petit point là-dessus, parce que vous l'avez ébauché tout à l'heure. Effectivement, vous avez été invité, largement invité. Est-ce que vous avez eu d'autres retours, par exemple, de médias, justement, externes, qui s'y intéressaient? Parce que il me semble avoir lu un truc dans, mais je sais plus quel grand quotidien français, qui disait également...
Il y a Les Échos, Le Figaro...
Le Figaro, Le Figaro, qui n'est pas pourtant un journal de gauche.
Qui n'est pas forcément de gauche, non, effectivement.
Mais qui disait qu'effectivement, c'était intéressant et puis qu'il y avait en tout cas matière à réfléchir à ce propos. Je vous dis ça parce que j'aimerais qu'on fasse un peu l'analogie, qu'on mette ça en rapport avec ce qui arrive au matin, puisque le matin, quelque part, ils sont bien attrapés, au bout du compte, le matin disparaît.
Mais ça, tu le sais depuis quand? J'ai vu ce matin, moi. Ce matin, j'ai vu que le matin était plus...
Alors, ta média a fait un communiqué, je crois, il y a de cela 2 jours.
Oui, donc c'est quand même récent.
C'est très récent.
Ce matin, parce que je suis un peu la tête dans le
giron. Je crois que c'est 2 jours en arrière. Il disait que la version online perdurerait, mais que le papier était terminé.
Et j'ai vu des commentaires très jouissifs, très appétissant sur le fait que c'était justement l'occasion pour qu'ils disent la vérité et qu'ils disent ce qu'ils pensaient.
Ce serait pas mal. En tout cas, on lance un appel maintenant, ex-journaliste du matin.
Bon, bien sûr, vous n'avez plus rien à perdre, donc allez-y, foncez. Voilà.
Appelez-nous, info@libradio.org.
Vous êtes invité. Venez chez témoigner. William,
faire de la vraie information.
Libre Radio.
Oui, et puis dire ce qui se passe, ce qui s'est passé.
Les pressions, les chantages éventuellement.
On va essayer d'être pédagogique et en même temps de ne pas hésiter à dire tous les tenants et aboutissants.
C'est une occasion
et puis
en or.
Et puis les réunions de rédaction, parce que là, il y a des choses aussi qui se jouent, certainement. En tout cas, voilà, le matin, finalement, se retrouve à être l'arroseur arrosé, d'une certaine manière.
Ouais, tu vois, ils auraient mieux fait d'être de notre côté. Hein.
Ouais. Alors, ce regard extérieur, vous l'avez éprouvé. C'est plutôt là aussi jouissif. Enfin, vous avez trouvé, finalement, des gens qui avaient... plutôt qui avait l'air intéressé par ça, par Money Plan.
Alors oui, c'est un petit peu le phénomène quand on explique, tu vois, souvent les gens ils comprennent quoi, ils sont pas complètement cons. Donc il faut prendre le temps, mais c'est vrai qu'un par un, c'est difficile d'atteindre tout le monde. Ouais. Mais une fois qu'on comprend comment écrire la monnaie, forcément on se dit qu'il y a un truc qui joue pas, quoi. Mm-hmm. Qu'on peut être que pour. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vécu, tu vois.
Tu nous expliques un petit peu quand même.
Oui, c'est vrai qu'on en parle beaucoup.
Quand même.
Allez, on sait pas. Allez, oui. Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas encore Money Plan ?
C'est possible.
Ouais. C'est jamais acquis. Et puis, on va dire d'ailleurs que les personnes parmi nous, si elles souhaitent
poser une question,
voilà, on passe les micros.
Parce que nous, on est entre...
Moi, je passe le mien. Igor à la technique aujourd'hui. Salut, Igor.
Igora même. Alors, les trois points essentiels, c'est que... la monnaie scripturale serait créée par la Banque nationale, alors qu'actuellement 90% de la monnaie qui est donc scripturale électronique est créée par les banques commerciales et seulement 10% par la Banque nationale et par la Confédération, à savoir les pièces et les billets. Donc l'initiative demandait que toute la monnaie, y compris la scripturale, soit créée par la Banque nationale. Et juste une petite parenthèse, jusqu'à 1999, donc de 1891 jusqu'à 1999, 108 ans, toute la monnaie était sous la responsabilité de la Banque nationale. Enfin, disons de la Confédération, puis de la Banque nationale, parce que la Banque nationale, elle est arrivée en 1907 seulement. Et bizarrement, en 1999, lors de la nouvelle constitution, la partie, toute la monnaie fiduciaire a disparu de l'article en question et s'est transformée en juste les pièces et les billets sont du ressort de la Banque nationale et de la Confédération.
C'est une petite pirouette.
C'est drôle,
quand même.
Hein.
C'est assez vicieux.
Donc ça, c'est la première chose que proposait Money Plan. Ensuite, il y avait le fait que cette monnaie pleine, donc en fait nos comptes courants, qui serait transformé en monnaie pleine à partir de l'acceptation de l'initiative, soit de la monnaie pleine et soit placée en dehors du bilan des banques. Parce que ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est que notre monnaie, l'argent qu'on pense avoir à la banque, qui n'est plus à nous, hein, on en avait déjà parlé plusieurs fois, en fait, on confie notre argent à la banque, puis du coup, ça devient sa propriété qui est dans son propre bilan. Donc nos comptes ne sont plus à nous, fondamentalement. C'est simplement des reconnaissances de dette, des avoirs. D'ailleurs, ça s'appelle des avoirs, hein. Ça ne s'appelle pas de l'argent, c'est de la... qu'elle nous doit. Alors, si elle est en mesure de nous la donner, de nous donner cet argent, elle nous le donne, mais si elle n'est pas en mesure de le faire, elle ne nous le donne pas. Ça, c'est le problème de cette monnaie qui est gardée dans ses bilans à elle. Donc là, avec la monnaie pleine, nos comptes courants sont en dehors du bilan, donc complètement à l'abri. Ce n'est même pas qu'ils sont garantis, c'est qu'ils sont protégés de toutes les crises, de toute faillite des banques. Donc, elles peuvent se casser la figure. On n'a plus besoin de les sauver, donc ça, c'est l'avantage... direct, tu vois, c'est qu'on n'a plus besoin de faire du bail-out. Le terme technique, c'est ça, le bail-out. C'est-à-dire que l'État, nous, les contribuables, n'ont plus besoin de mettre leurs impôts dans le sauvetage des banques. On n'a plus besoin ensuite de faire des référendums, des initiatives pour que la BCG nous rende notre argent, tu vois.
En espérant que les 30 prochaines, 30 prochaines années...
Il faut vraiment que ça marche, ce truc. Ouais. Et la troisième chose, c'est que la BNS émet, donc crée de la monnaie à destination des cantons de la Confédération ou directement des citoyens, de monnaie sans dette. Sans dette, ça veut dire sans intérêt, donc ça ressemble à un RBI, en fait, qui permettrait d'éponger, en fait, toutes les dettes publiques qui sont des gros prétextes pour couper dans les services publics, pour couper dans Châteaubriand et toutes les manifestations genevoises associatives,
la culture,
etc., et la culture, tu vois. Donc ça permettrait de non seulement renflouer les caisses de l'État, mais aussi financer des projets d'intérêt général. Financer un média citoyen, la permaculture, des projets de développement durable et d'énergie renouvelable, etc. Ce qui n'est pas du tout financé actuellement, tu vois. Les banques commerciales, elles, ça ne les intéresse pas, ces projets-là. Elles veulent continuer. Elles sont potes, normalement, avec, tu sais, la pétromonarchie, les gens qui ont des intérêts dans divers... secteur industriel et si possible empoisonnés, genre Monsanto et autres. Enfin bon, là, on va pas. Je diverge un peu, oui, mais Bayer, l'idée, c'est que Bayer maintenant. Pardon. Ouh là là. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai fait.
Il faudra qu'on parle de ça.
J'en profite pour dire, c'est un élève qui me l'a rappelé tout à l'heure. Vous savez, Monsanto, il a été racheté par Bayer. Je dis, ah, c'est bien, vous avez bien compris comment ça marche. Ouais. Merci, on va en parler 5 minutes.
Mais on fera un sujet là-dessus, hein, parce qu'effectivement, oui. Vous étiez à la marche.
On était à la marche annuelle.
Ouais, bien sûr.
Donc ça, c'est important de le redire. Et effectivement, tout ce qui se passe là derrière.
Encore un gros morceau, ça.
Oui, c'est un gros morceau, mais on sait d'ores et déjà que Monsanto ne s'appellera plus Monsanto. Donc là aussi, il y a toute une campagne de com qui
de
va
com,
être
ouais.
refaite.
C'est juste l'histoire de l'image et de l'étiquette, comme d'habitude.
Voilà. Et ça nous donne de nouveau la mesure du monde dans lequel, qui nous assiège, où finalement le phare est là et est distribué aux personnes et on s'y perd. Et au bout du compte, on sombre également parce que les informations sont de plus en plus difficiles à obtenir et qu'elles sont masquées, clairement masquées. Quoi qu'il en soit, on peut dire que le site internet, qui est extrêmement exhaustif sur l'initiative Monnaie Pleine, lui, il reste en ligne.
Tout à fait. Initiative-monnaie-pleine.ch.
Voilà, et ça, c'est parce qu'il y a énormément de ressources.
Je crois qu'il n'y a même pas le mot initiative. Tu tapes Monnaie Pleine et puis tu tombes dessus. C'est le premier.
Nous, on va aussi dire que on a une page sur le site de Libre Radio qui est destinée aux personnes
à ces sujets-là.
Et puis,
comme je vous dis, il y a le site AAA positif pour les compléments exactement. Concernant tout ce qui est bancaire et monnaie.
Ouais. Alors justement, vous qui assistez aux séances de la Banque nationale,
aux assemblées générales.
Donc l'assemblée était avant. Il y a eu une assemblée.
Et là, c'est Gérard qui va en parler parce qu'il a été. Moi, j'ai pas pu.
C'est moi qui étais.
Alors, est-ce que cette initiative a été abordée à ce moment-là?
Oui, exactement. Tout à fait.
Ça fait déjà 2 ans qu'elle est abordée.
Il y a eu entre autres un bon petit moment, 8 minutes, et c'était exceptionnel, de François Thibenthal qui a vraiment défendu bec et ongle Monnaie Pleine. Je pense qu'il a été écouté, après le moment formel de l'Assemblée, il y a toujours une réception et il a été abordé assez profondément par y compris les cadres de la banque. Donc ça veut dire que c'est clair, la Banque nationale était contre cette initiative, mais je pense, et on en a preuve justement comme Chloé disait tout à l'heure, par le fait que Jordan semble proposer
favorable à donner un compte à la Banque nationale à tous les citoyens.
C'est une avancée. C'est une avancée qui aurait été absolument, à mon avis, impossible sans
des interventions répétées, l'initiative et d'autre part les interventions qu'on a. Parce que mine de rien, avec notre groupe de 25-40 personnes là d'actionnaires qui se mêlent un peu le pétit aux assemblées gentiment. Ça éveille les médias, ça donne un peu.
Et puis on a eu l'occasion d'écouter aussi Gérard Fouché qui était présent.
Il est venu, ouais.
Et qui a fait tout un plaidoyer autour de la création monétaire, de la.
Vous pouvez écouter ces séquences sur YouTube. Vous tapez BNS Assemblée générale. Éventuellement Gérard Fouché ou François Thibenthal, et vous trouvez.
Lors d'une AG.
Moi-même, j'ai.
Et Gérard aussi.
Je suis intervenu par rapport à KPMG. KPMG, qui est l'organe de révision, qui a été choisi un tout petit moment avant dans l'Assemblée. Et ce qu'on demande.
C'était mon intervention de l'année dernière. C'était Chloé qui l'intervention cette année.
Exactement.
Il a tapé sur le clou, il risque d'en
rentrer. C'était la deuxième fois qu'on disait la même chose. On attendait qu'au moins l'Assemblée des actionnaires puisse choisir un organe de révision et non pas se faire imposer toujours un des trois ou quatre.
L'un des quatre, les Big Four. Je ne sais pas si on les rappelle vite fait.
Oui.
Ernst & Young, Deloitte, PricewaterhouseCoopers, qui était l'ancien réviseur des comptes, et puis qui avait blanchi. Non, parce que justement, après, il y a KPMG qui est arrivé, puis qui a blanchi toute l'équipe des anciens dirigeants. Puis hop là, bizarre, ils se retrouvent à la révision des comptes. Incroyable.
Et puis cette révision des comptes, qui ne passe pas par un élément que je trouve essentiel, c'est une reprise des investissements de la banque pour savoir pourquoi on investit dans les armes, on investit dans l'énergie
dans les gaz
fossile, dans son ensemble, et puis les gaz de schiste en particulier. Tout ça, c'est contre la loi sur la Banque nationale. Donc ça veut dire que c'est des libertés qu'ils prennent. Donc si un organe de révision était correct, eh bien, il ferait des remarques sur cet aspect. Des investissements.
On rappelle aussi le détournement de fonds, en tout cas présumé, de la banque du Car Postal quelques mois avant, deux mois avant, je crois. Et KPMG, qui était réviseur des comptes, qui avait dit non, mais il n'y a pas de souci, aucun problème. Je ne sais pas si on peut se poser des questions sur l'efficacité.
Parce que ça, lors de l'AG, par exemple,
de cette multinationale.
Vous étiez là et puis vous avez justement sonné le tocsin, mais
alors,
autour de vous, comment ça se passe?
Pour la petite histoire, un des intervenants avant moi, il a décidé de sonner le son du Car Postal, comme ça.
C'était le vrai tocsin, tu vois, tu croyais pas si bien.
Juste pour rappeler que le Car Postal, c'était quelque chose qui était cher aux Suisses. Et puis justement, KPMG vient de faire une grosse connerie là autour. Et puis c'est eux qui sont choisis.
Mais ça, il y a une levée de bouclier à un moment donné.
C'est un sketch, en fait. C'est drôle.
C'est ça, parce qu'on a l'impression que c'est des secrets de polichinelle que tout le monde, au bout du compte, sait.
Mais qu'on accepte, je sais pas.
Trahit.
Il n'y a pas de
son mandat et que voilà, et qu'on...
Pareil pour la redistribution des bénéfices, on va peut-être leur dire encore une fois,
mais
la Constitution fédérale dit en son article 99, alinéa 3, je crois, ou 4, maintenant je mélange un peu les pinceaux, le bénéfice net de la Banque nationale doit être redistribué au moins aux deux tiers aux cantons. Ça, c'est la Constitution qui le dit. Ensuite, il y a la loi sur la Banque nationale qui dit un petit peu différent, elle dit... le bénéfice net de la Banque nationale doit être distribué à raison de deux tiers au canton et un tiers à la Confédération. Donc il y a déjà une petite contradiction puisqu'on ne peut plus, on ne peut pas dépasser les deux tiers, mais dans la Constitution, c'est au moins aux deux tiers. Et puis ensuite, il y a une convention qui vient là-dessus qui dit qu'en fait, c'est maximum 2 milliards de redistribution au canton et à la Confédération, sachant qu'il y a eu un bénéfice de 54 milliards, en tout cas officiellement, l'année dernière. Donc, deux tiers, ça fait 36 milliards.
Tu vois, tout à fait,
différentiel de 34 milliards.
Rien que ça, ouais, tout à fait. Alors, l'austérité.
Alors, sur les 26 cantons, vous pouvez imaginer combien on devrait avoir dans chacun des cantons.
Oh, donc, tu fais 34 milliards divisé par 26, donc il y a au moins un milliard de plus par canton.
Et tout ça...
Et ça nous permettrait de ne plus parler d'austérité.
Bah c'est ça. Après, on nous dit, mais il n'y a pas d'argent, tu comprends. Alors, on doit emprunter, on doit faire des crédits. Mais à qui on fait des crédits?
Et voilà.
Eh ben aux banques commerciales, on en revient au point de départ.
C'est un serpent qui se mord la queue. Je crois qu'il y a quelqu'un qui aimerait intervenir. Si tu veux te présenter ou intervenir seulement, bienvenue, welcome.
Alors, bonsoir. Salut. Je m'appelle Mathias Lanzoni. Je suis juste passé là et j'avais envie de poser une question. Il faut bien voir que, effectivement, les deux tiers des bénéfices sont alloués au canton, mais il faut voir aussi que la Banque nationale, il y a des années où elle fait elle réalise des pertes. Je crois typiquement qu'en 2015. En fait, vous semblez bien plus spécialiste que je ne le suis, mais en fait, juste isoler un exercice, ça me paraît pas tout à fait juste parce qu'il y a aussi des années précédentes où des pertes sont tout à fait conséquentes. Donc il faut bien voir, il faut tenir compte de l'ensemble du cycle, mais
vous
semblez bien plus spécialiste que moi.
Remarque très pertinente et ça permet...
Justement, Gérard, tu vas nous répondre à ça parce que c'est la réponse qu'a donné le Conseil fédéral.
C'est très juste, l'argent est mis en effet dans les réserves en vue
d'une redistribution future.
Des 35 ans qui viennent, parce
en fait,
qu'il pourra avoir 35 ans de graves déficits dans les réserves. Et la réalité, c'est qu'en fait, c'est assez rare qu'il y ait des pertes. L'année d'avant, il y avait eu aussi des bénéfices importants.
Et puis
ça veut dire qu'en fait, nous, on observe, en tout cas sur les 3, 4, 5 dernières années, des bénéfices. Il y en a eu, je crois, sur les 4 ou 5 dernières, il y en a une où il y a eu une petite perte. Mais c'était une petite perte. Et ces réserves, c'est vraiment pour 35 ans de pertes continues.
Et puis, il y a eu une convention, je ne sais plus comment on appelle ça, un texte en tout cas, qui a été voté, qui a été institué en 2016, qui disait qu'il fallait une réserve de 20 milliards. Là, on est à 67 milliards. Tu vois, il y a donc un différentiel de 47 milliards.
Quand même.
Donc, normalement, les seules obligations que la Banque nationale a, c'est d'avoir ces 20 milliards en réserve. Là, elle les a plus que largement.
Est-ce que ça répond à ta question ou tu aimerais rajouter quelque chose?
Oui, peut-être juste dire que la Banque nationale a donc des réserves monétaires qui sont tout à fait considérables. Je crois que on est de l'ordre de 700 milliards de francs à peu près.
C'est pas ses réserves, ça c'est son bilan. Enfin, elle est à 830 ou 840.
Tout à fait, vous avez raison. Effectivement, ce sont des devises étrangères pour la plupart, qui sont constituées sous forme d'actions, d'obligations.
Oui.
Mais il faut juste voir que la dépréciation de ces postes au bilan, c'est pas un scénario qu'on peut exclure facilement. C'est possible de, ben voilà, de que la BNS subisse certaines pertes, et donc c'est à mes yeux, mais encore une fois, je suis pas un spécialiste, mais à mes yeux, c'est pas absurde, disons, de garder une certaine réserve. Même 60 milliards, ça paraît des montants énormes, mais il faut bien voir que c'est à peine 8% de ces postes au bilan. Et en fait, une dépréciation de 8%, c'est pas du tout inimaginable.
Ouais, alors on peut voir aussi le
problème. Merci beaucoup, en tout cas. Hein.
On peut voir le problème dans l'autre sens. On se dit un bilan de 830 milliards, j'ai plus le chiffre exact. Qui gonfle de 100 milliards par an, est-ce que c'est vraiment... je veux dire, là, pour l'instant, les devises, elles sont en train de s'apprécier et les bénéfices, ils sont plutôt à la hausse, tu vois.
Et puis, c'est... sans compter encore que la fameuse... le fameux bénéfice de la création monétaire de la Banque nationale, le droit de seigneuriage, permettrait, si on le mettait au bilan, parce que ce n'est pas le cas, permettrait encore d'ajouter de l'ordre de 100 milliards à tout
de
ça.
Bénéfices.
De bénéfices.
Là, on a estimé à 47 milliards en plus, de la création, enfin, en plus du bénéfice annoncé en termes de création monétaire. Donc là, on était à, j'avais dit quoi avant, 54.
Puis, on s'en perd un peu centaine, avec tous ces milliards là. Les chiffres nous tournent.
Ouais, non, 100 milliards en tout de bénéfices pour juste un an. Donc voilà. et puis après, on peut se reposer la question. Est-ce que l'économie ou la Banque nationale est au service des citoyens ou c'est les citoyens qui sont au service de l'économie, des banquiers et de la Banque nationale? Après, tu vois, c'est une question de priorité, de comprendre un peu à quoi ça sert tout ça.
Ouais. Bon, en tout cas, merci hein, d'être intervenu, ça nous permet de dire un peu ce qu'on sait.
Moi, j'aime bien
là-dessus.
Quand on bondit un petit peu.
Bien sûr.
Ouais.
Oui,
voilà. Du coup, où en étions-nous?
Revenons-en au bilan de Monnaie Pleine, hein, puisque c'est le sujet de cette discussion-là. Alors, bon, clairement, on peut dire que vous qui avez arpenté la rue tous ces derniers mois pour en parler, vous avez pu prendre la température du peuple. On peut dire que votre bilan à vous, il est plutôt positif.
Ouais, il est super. Enfin, je trouve qu'il est positif. Déjà le jour où on a su qu'il y avait 111 000 signatures qui avaient été réunies en décembre 2015 au lieu des 100 000, je me disais, waouh, c'est déjà bon signe, tu vois. Les gens se rendent compte que c'est important.
Ça veut dire qu'on peut parler d'un terreau fertile qui existe au moins dans le canton de Genève. Mm-hmm. Est-ce que vous l'avez un petit peu retrouvé également en Suisse romande ou quoi qu'il en soit, à Genève, là maintenant, il y a quelque chose à faire. Le terrain
tu vois,
a
c'est
été
ça.
Retourné.
En fait, ça me fait penser, on peut faire une initiative Monnaie Pleine canton de Genève. Commencer par la ville des banques.
Absolument. Mmh. Ben,
ça a du sens, non?
Ça a beaucoup de sens, moi je trouve.
Ça pourrait avoir du sens.
Ça irait très bien, plus avec votre balade...
La visite guidée des multinationales, ouais, hop là, et une petite initiative derrière. Ouais, ça sonne bien.
Mais c'est-à-dire que selon vous, la terre a été retournée, maintenant on peut l'ensemencer.
On peut semer, mais en même temps, tu sais, la terre, il ne faut pas trop la retourner, parce que Claude Bourguignon, il dit que la permaculture, c'est mieux de laisser la terre.
Il faut laisser, oui, absolument,
mais bon, bref,
il faut gratouiller, c'est vrai.
On y va, non mais, de toute façon, vous avez... parler agriculture en même temps.
Et puis, on va parler souveraineté alimentaire.
Exactement.
Mais on va, non, quoi qu'il en soit, nous n'avons pas les moyens, nous, de retourner la terre à la charrue. On gratouille avec nos budgets, et là, ça nous permet également de
mieux,
parler.
Tu vois,
absolument.
Parce qu'on abîme moins le terreau.
Et ça nous permet de parler également de la transparence des frais de campagne, parce que là aussi,
revenons-en
il y a une
disparité. À notre programme de...
voilà,
ce qu'on proposait comme égalité et équité.
Juste avant qu'on passe à ça, j'aimerais quand même dire que ne critiquons pas trop la Suisse allemande, le gap entre Suisse romande et Suisse allemande. Au niveau de la récolte des signatures, au niveau de Zurich, il y a eu un effort énorme.
Mais on n'a pas dit qu'il y avait un gap.
Ouais, hein. Non, certainement pas.
Il n'y a pas eu ce gap.
On a juste dit qu'à Genève, on avait été trop fort, c'est tout.
À Genève, quelque chose de très fort, en effet. Mais en fait, la Suisse allemande était très fortement derrière cette initiative. Et je pense que sans nos amis de Zurich, on ne serait pas arrivé
à ces
111 000 signatures. Donc,
c'était
un effort conjoint, Suisse romande, Suisse allemande, avec des différences de fonctionnement, mais un effort conjoint.
Et c'est d'autant plus intéressant qu'on pourrait retrouver justement une transcendance du Röstigraben, en tout cas si on suppose qu'il y en ait un pour de vrai, au travers de ce genre d'initiative qui pourrait réunir l'ensemble des citoyens à très large spectre.
Il y en a plusieurs comme ça.
Commune. Et il y en a
là, justement, on va parler un petit peu de la souveraineté alimentaire, des pesticides. Là, il y a l'initiative qui a fini de récolter ses signatures il y a un mois à peu près. pour une Suisse libre de, enfin, sans pesticides de synthèse. Ouais. Donc ça, c'est un truc super rassembleur, fédérateur. Tu vois.
Et puis la souveraineté alimentaire, c'est un sujet
ça,
qui va,
ça concerne tout le monde et pas que la Suisse. Hein.
Ouais, tout à fait. D'ailleurs, je me demandais si par hasard... Oh non, je sais pas, la souveraineté alimentaire. Non, d'accord. C'est
parce que. Mais là, tu parlais. Attends, il me semble que tu parlais juste avant de la transparence voilà, et voilà, des financements.
Voilà, parce que je voulais vous
pour
poser
nous,
la
c'est
question suivante. Savez-vous quel est.
Alors,
vous savez certainement quel budget vous avez alloué à votre campagne Monnaie Pleine.
Et alors, personnellement.
Non, mais c'était pour dire la différence, la disproportion entre les, voilà, des groupes citoyens qui essayent tant bien que mal, avec les outils qu'ils doivent arracher à l'ennemi d'une certaine manière, et puis ben, voilà, des masses médias qui sont aux mains de grands groupes par des collusions dont on a parlé tout à l'heure et qui financent à flux continu.
Sans limite.
Voilà, ouais. Sans limite.
Mais disons que cette initiative-là, il y avait un apport, par don, semble-t-il. Moi, je ne suis pas
très
au courant.
C'est vrai qu'on ne sait pas tout au niveau des financements.
Même pas forcément de Suisse. Et on a eu assez facilement du matériel de campagne en provenance du comité suisse d'initiative. Mmh. Et on avait plein de petits billets de 20 francs, là, qui étaient des faux billets avec de l'explication. Il y avait plein
de flyers, de
banderoles, etc. Ouais. Et d'autocollants. Et en fait, c'était un financement relativement agréable par rapport à d'autres campagnes.
C'est vrai que je crois qu'il y a eu quand même des moyens qui ont été déployés. Il y a eu des moyens. Ouais. Mais ce qu'on n'avait pas, c'est les médias. Mmh. C'est les canaux.
C'est ça.
Et le Conseil fédéral, les gouvernements, les partis. D'ailleurs, c'est intéressant. Enfin, on peut peut-être revenir sur les partis.
Oui, revenons sur les partis.
L'un des arguments des partisans du non, c'était qu'aucun parti ne validait l'initiative Monnaie Pleine. Or, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que peut-être au niveau national, ceux qui profitent, ceux qui mangent à la soupe, alors ils étaient contre, puis ils avaient comme instruction d'être farouchement contre. Mais à Genève, on avait, je ne sais plus, 6 ou 7, il y avait le PS qui était pour Monnaie Pleine, il y avait les Verts, il y avait Ensemble à Gauche, Solidarité, Parti du Travail, il y avait les listes pour le Grand Conseil, il y avait liste pour Genève, il y avait Nous, Égalité, Équité, il y avait la liste Femmes, qui est-ce que j'oublie, le MCG.
Ouais. Oui.
Tu vois, il y avait juste le PDC, le PLR et l'UDC qui étaient contre, sauf erreur.
Et encore, je crois que les jeunesses du DC, je crois.
Ah, ça, je sais pas.
Mmh. Bon, on va faire.
Bon, voilà. Ça veut dire qu'on en revient à ce qu'on disait. On peut, par ces types d'initiatives, transcender vraiment et bouger les lignes
rassembler.
Et puis rassembler.
Parce que c'est un intérêt vraiment citoyen général.
Absolument.
Il n'y a pas de préférence. Ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de teinte idéologique, je dirais.
On voit que de plus en plus. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais on observe quand même que de plus en plus, les partis, on les quitte. Ce que je veux dire par là, c'est que typiquement, pour la manifestation contre la... j'en profite. Hein.
Ouais.
Parce qu'effectivement, on a vu lors de la manifestation, par exemple, contre l'augmentation des primes d'assurance maladie, finalement, là, c'est effectivement, même si à la fin, il y a une tentative un peu de récupération avec quelques discours du PS et des Verts, je crois, mais on a bien vu qu'au départ...
Même du MCG, oui.
Voilà, mais qu'au départ, c'était une initiative vraiment citoyenne. On peut également parler de l'initiative multinationale responsable, qui est également un conglomérat de collectifs et d'associations, plus de 80, qui se regroupent pour ces combats-là. Et on a l'impression que de plus en plus de combats, justement, sont menés
par la base
et que certains partis risquent d'être débordés. Ils devraient faire attention parce qu'ils vont se faire vraiment déborder.
Ils sentent bien. On a bien senti durant la campagne l'égalité et équité. On était 3 listes citoyennes, 3 listes citoyennes, donc hors parti. Et on sent bien que la tendance, elle est à des groupes de citoyens sans étiquette. Je ne sais pas si vous le sentez aussi, si
mais
tu
complètement,
le sens.
Complètement, ouais. Nous, on a cette sensation-là, effectivement, que de plus en plus, toutes ces structures sont mises à mal parce qu'on y observe des reproductions de comportements délétères, pour le moins. Et les citoyens, à un moment donné, ils se disent « Non, mais attends, nous, on est là, on fait ça pour zéro franc. » Pire que pour zéro franc, parce qu'ils mettent de l'argent.
La différence, c'est ça. C'est que les groupes comme nous, en fait, de militants, de citoyens, on est animé par une foi, par une envie d'un monde meilleur, par des idées, pas par des avantages financiers ou des avantages de pouvoir. Donc c'est ça qui fait la différence, et la force, elle est encore plus prégnante quand ça vient du cœur que quand ça vient du porte-monnaie. Et le problème des partis, c'est ça. Il y a aussi l'idée que c'est monolithique. On a une idée, puis tout le monde doit la propager. C'est un peu comme ce que tu expliquais avec les banques qui étaient obligées, les banquiers qui étaient obligés de dire non à Monnaie
Pleine. Tout à fait.
Quand l'idée, elle ne vient pas de nous, qu'elle est imposée par l'extérieur, c'est beaucoup moins fort.
Et oui.
Et ça se casse la gueule à un moment donné. Mmh. Et ça, on l'observe beaucoup dans les partis, et même dans les partis, je dirais, d'extrême gauche, qui sont... Qui pourraient être ouverts à des alternatives qui sont hors système. En fait, on s'est heurté à cette réalité qui dit que non, en fait, il y a des choses qui ne veulent pas changer. Notamment pour Monnaie Pleine, je vais les citer, bon, Solidarité, ou en tout cas Ensemble à Gauche, n'ont pas lutté farouchement pour Monnaie Pleine. Et l'argument, c'était de toute façon, ça ne passera pas. Alors on fait quoi? On n'y va pas? On va pas à la guerre sous prétexte qu'on va peut-être la perdre.
Ouais, non, mais
c'est quoi cet argument?
C'est inaudible, cet argument. C'est inaudible.
Moi, je peux pas
comme le RBI
ça.
D'ailleurs. Ouais, non, mais clairement, non, bien sûr. Ouais.
On se déclare forfait avant de faire le match.
C'est ça.
Quoi.
Ouais, absolument. Non, mais
et puis, il y a une espèce de mesure du fait que si on va mettre de l'énergie sur une initiative qu'elle est votée, qu'elle n'est pas votée, qu'elle est refusée, on risque de se désavouer en tant que parti.
C'est comme si on avait un honneur et un orgueil à défendre, tu sais, ça passe par l'ego, c'est ça.
Alors donc, voilà. Alors,
et peut-être une place dans le cortège.
Voilà, alors avec des raisonnements comme ça, c'est évident
qu'on perd
un certain nombre de batailles de prospective, de batailles qui vont dans le sens d'un vrai changement de société.
Donc on risque pas de changer finalement.
Et c'est pour ça, je pense, qu'un certain nombre de citoyens s'intéressent à des personnes qui
ont de l'audace, qui ont
d'abord des
pas
valeurs,
peur et d'aller pas, ailleurs, voilà, de proposer des vraies alternatives.
Parce qu'on fait des propositions qui sont...
Tu sais, le tirage au sort, par exemple, des choses comme
tout
ça.
Tout à fait, tout à fait.
La prise en compte du vote blanc, il est temps, quoi. Ouais. Parce que tu as vu 34% de vote, de participation à la votation de dimanche. Mmh. 34%.
Ah ouais,
alors, on fait quoi?
C'est ça, ouais, bien sûr. Non, l'audace, je pense que c'est un mot-clé que tu viens d'énoncer. Et effectivement, on peut le dire que vous, au travers justement de la campagne que vous avez faite au moment d'égalité et équité, là, il y en avait de l'audace. Justement, on voit dans les programmes. Mais malheureusement, voilà, ces programmes sont-ils lus? Sont-ils de nouveau relayés?
Ils sont lus par les personnes à qui on les donne directement. Ouais, mais de nouveau, les médias, gros ostracisme.
C'est ça.
L'omerta totale.
Il y a quand même... Bon, c'est vrai qu'on pouvait... Ce que je veux dire par là, c'est que si on se met un petit peu plus en perspective dans le temps, puis qu'on parle de 20 dernières années, on se souvient bien des premiers achats, rachats de médias. Ça a commencé avec TF1, dont la phrase...
De Patrice Lelay, on vend du temps de cerveau disponible voilà. À Coca-Cola.
On peut dire que ça, c'est peut-être le moment zéro. Voilà, c'est le moment zéro du moment où on a compris qu'ils avaient des desseins concernant les médias.
Passe,
voilà, exactement. Juste pour en revenir, à moins que vous vouliez compléter, de nouveau pour en revenir à Monnaie Pleine, s'il fallait changer quelque chose de ce que vous avez fait, est-ce que vous avez observé des failles particulièrement patentes sur lesquelles il faudrait revenir pour que la prochaine fois, pour une fois, ça passe.
Alors moi, je pense qu'on aurait pu mettre un peu plus de femmes en avant dans cette campagne, parce que ça a été très, très masculin, notamment à l'émission Infrarouge, tu sais.
Oui, non, je n'ai pas vu, mais...
T'as pas vu, il y, y avait Jean-Marc Haim, il y avait Sergio Rossi et le vert, j'oublie tout le temps son nom, Moki, son prénom, je ne sais plus. Alors ok, c'était trois mecs contre trois mecs, alors peut-être que parler d'argent, ça, je ne sais pas, l'opinion publique pense qu'il faut que ce soit des hommes qui en parlent. Moi, je pense que ça manquait de chaleur, ça manquait de sympathie, d'empathie, de quelque chose d'humain qui permette aux gens de s'identifier. Tant qu'on cantonne ce genre de sujet à des milieux, soi-disant d'experts, de gens sérieux qui comprennent, parce que les autres, ils comprennent pas, comment tu veux que les gens s'intéressent vraiment?
C'est clair.
On leur dit, c'est pas pour vous, vous avez pas le niveau, vous n'êtes pas économiste, donc au revoir, passez votre chemin. Nous, on est entre cravatés et puis c'est bon, on se comprend. Et faites-nous confiance surtout. Alors là, ça, c'est une partie, je dirais, d'idées pour une prochaine fois. Mmh. Ensuite, il y a eu parfois un petit peu des guerres intestines, enfin des batailles de...
D'égo
de
à l'intérieur.
Ouais, ça
c'est
tu
terrible.
Tu sais, mais dans tous ces combats, je déplore ce truc-là. Voilà. Donc ça, je ne sais pas si on peut les éviter.
de nouveau, hein, cette idée de transcender
ça
par des causes.
Les personnes qui, tout d'un coup, gonflent leur ego là autour.
Ouais, ouais, ah, c'est embêtant. Ah. Et puis récupèrent des choses.
Si, si par exemple, il y a eu des personnes qui ont eu envie de faire un petit peu des choses de leur côté pour valoriser Monnaie Pleine, puis il y avait certains qui disaient non, mais ça, non, c'est mieux pas. Tu sais, nous, on a dit ça, on a fait ça, mais on veut pas trop que ça déborde. Et en fait, moi, je trouve que toutes les bonnes idées, elles sont à diffuser et à semer avec tous les moyens qu'on a et toutes les bonnes volontés. Et tuer les énergies, tuer les envies des gens qui veulent se donner là-dedans, bah, ça tue aussi les résultats, quoi. Ça a un impact.
Absolument, c'est clair.
Aussi, moi, je pense que les affiches, on aurait pu les diversifier parce que c'était un peu toujours la même. Et bon, tu me diras du côté
du nom.
Et puis très sérieuse. Il y en avait une notamment, parce qu'on avait organisé un François Thibental et puis on avait participé à l'organisation d'un congrès Monnaie Pleine le 21 avril. Et il y avait eu un concours d'affiches à ce moment-là. Et il y avait vraiment des chouettes affiches, notamment une qui disait sortez de l'esclavage. On voyait des mains qui se levaient avec des chaînes qui giclaient, tu sais, qui partaient. Puis je trouvais assez imagé. C'était celle qui avait gagné le concours d'ailleurs. Et tu vois, je pense qu'on aurait gagné à avoir différentes affiches pour appuyer le message puis le prendre de différents angles. Parce que là, c'était juste qui doit créer l'argent.
Ouais.
Puis c'est tout.
Qui a été repris par Sina. Il y avait du bleu à la place
du
doré.
La couleur a changé. C'est comme le PDC qui a repris l'affiche en orange. Mais bon.
Bon, mais merci à Sina.
Ouais, très bien.
Quant à la variété des personnes, effectivement, qu'avez-vous pensé du congrès Monnaie Pleine à Étoile ? J'ai trouvé quand même intéressant.
Dis-nous toi.
Alors, moi, j'ai trouvé effectivement que, du coup, tu parlais des femmes présentes. J'ai trouvé qu'il y avait, de ce point de vue-là, clairement un déficit.
Alors, et encore, normalement, il n'y avait que des hommes prévus. Moi, ils m'ont demandé à l'arrache, François m'avait demandé de présenter l'après-midi parce qu'il fallait des femmes. Et notamment aussi dans la petite intervention du matin, il m'a dit vas-y, moi j'avais rien préparé.
Au bout du compte,
et puis j'avais l'impression d'être l'alibi, tu sais. Ah, c'est bon, il y a une femme.
Ouais,
alors, ça tu vois, c'est pas terrible, c'est pas non plus très, très valorisant. Parce que moi, j'allais pas en tant que femme, j'allais en tant que concernée par la question monétaire et un peu experte dans le domaine, tu vois.
Voilà,
donc, être juste cantonné au rôle de femme,
Il
y avait Eva. Il y avait Eva Zaki.
Et alors, voilà, moi, ce que j'ai trouvé extrêmement courageux, c'est d'avoir les contradicteurs qui étaient présents et invités. D'ailleurs, c'était même compliqué pour certaines prises de parole.
Jean-Pierre Roth, il faut qu'on en parle. Je dis toujours Roth, mais c'est Roth. Roth, c'est pas, ça lui rend pas hommage.
Non, mais voilà, c'était quand même courageux, je trouve. Que les contradicteurs soient là et que même leurs paroles soient un peu protégées.
Parce qu'il y a eu des huées, on a dit non et calmos.
Mais
ça, c'est assez singulier.
François Thibental, dimanche, me disait en aparté que Roth n'était plus intervenu après.
C'est ça.
On va rappeler qui est
Jean-Pierre Roth. C'est un ancien directeur de la Banque nationale. Mm-hmm. Il a été au FMI. Il a été à la Banque des règlements internationaux, à la BRI. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre ?
Alors moi, j'avais relevé COSA,
c'est
déjà pas mal.
Maintenant, il est dans le groupe Swatch et le groupe Nestlé.
Ah oui, c'est vrai.
Il est resté dans ces milieux oligarchiques.
Tout à fait.
Et étonnamment, je te dis, il a fait son intervention. Il y a eu des huées. On a dit maintenant, arrêtez de jeter des tomates. Et ensuite, sa femme était là. Elle a été touchée par les interventions aussi qui étaient de totale bonne foi.
Mm-hmm.
Moi, on s'est dit qu'elle allait voter peut-être oui à Monnaie Pleine. Et puis, ça a un petit peu ébranlé son mari. Et depuis, ce que dit Gérard à l'instant, François nous a dit dimanche que depuis ce moment-là, il n'était plus intervenu sur Monnaie Pleine, alors que c'était le porte-parole officiel avant, quoi.
Incroyable.
Donc, il n'avait plus osé, ou peut-être pas osé, ou pas voulu, ou je ne sais pas, contredire Monnaie Pleine, en tout cas en personne. Je crois qu'il a fait encore un article. Alors, je ne sais pas si ça a eu un impact ou si c'est juste une coïncidence, mais c'est quand même intéressant de voir ça.
Oui, certainement que ça a eu un impact, parce qu'il ne se serait pas privé de...
Eva Zaki, qui était là pour le nom,
ça.
Et qui, à la fin de la journée, a affirmé qu'elle allait voter oui.
Ah, mais ça, ça me fait plaisir.
Non, mais ça, tu vois, c'est des victoires.
Mais c'est des victoires. Mais d'ailleurs, j'étais quand même un petit peu à demi-surpris, même si j'entends sa ligne. Et puis... Mais quand même, je pensais que sur ce point-là, elle qui est quand même parmi les fondatrices du Léman. Donc d'une monnaie...
Peut-être qu'elle a peur que la BNS fasse concurrence au Léman.
Je ne sais pas. Mais vous, parce que vous, ça vous a pas...
Si, ça m'a surprise. Mais quand je voyais Mirette Zaki, donc la rédac-chef de Bilan, qui est sa sœur, donner des semblants d'arguments, je dirais, sur Facebook contre Monnaie Pleine. Elle disait, entre autres, que ça allait donner... que la monnaie garantie par la BNS n'était pas plus solide que la monnaie garantie par les banques. Je veux dire, on a bien vu que c'était pas le cas. Mmh. Alors, soit c'est de la mauvaise foi, soit c'est de la loyauté envers son milieu et puis son employeur. Je sais pas exactement. Mais je me suis dit, ok, donc sa sœur jumelle, en plus, Eva, c'est sa sœur jumelle. Je ne sais pas si ça passe dans les gènes, mais en tout cas, je comprenais qu'elle allait se ranger du côté de Mirette.
Mais n'empêche qu'à la fin, donc, comme vous l'avez dit, elle a déclaré comme ça que...
Sa déclaration. Elle a été touchée. Non, elle était très... J'ai trouvé très humaine, tu sais, très à l'écoute finalement. Et puis... très touchante.
Il faudra, bon, c'est les points essentiels sur lesquels on reviendra, mais si on faisait le compte des personnes qui effectivement, parce que tout à l'heure on parlait des banquiers, mais certainement que beaucoup d'entre eux ont voté sous assignation, je veux dire. Hein.
C'est ça.
Si on refaisait le truc, et puis que dans quelques temps, on refait le match dans quelques temps, il se peut que, tu vois, que au moins à Genève, ou peut-être, tu parlais de l'échelle genevoise, ou peut-être de l'échelle romande, je ne sais pas, mais qu'une telle initiative puisse passer mais, non ?
Moi, j'en suis quasi sûre. Si en tout cas, il n'y avait pas cette pression de la part des milieux bancaires sur leurs employés et sur leurs affiliés, moi, j'en suis sûre que ça passe.
Mais enfin. Bon, eh ben, en tout cas, on n'a pas encore parlé plus loin des chiffres. Est-ce que vous auriez envie ? Ben, je sais que toi, Gérard, tu dois. Je ne sais pas quelle heure c'est, mais il me semble que.
Moi, malheureusement, je vais peut-être vous quitter à 9h. Ouais.
Alors, il est déjà nous, là.
C'est 9h moins 5. Alors, j'ai juste une petite, une petite particularité que je voulais relever, que j'avais compté tout à l'heure. Dans la ville de Genève, il y a 12 quartiers qui ont voté oui à Monnaie Pleine, et je peux faire l'analogie avec TISA, parce que là on est aussi coordinateur du comité Stop TISA.
Tu as mis les... Non.
Non, pas ça. Non, parce que nous on a des statistiques sur les communes qui se sont déclarées symboliquement hors TISA, mais il faut savoir que dans le canton de Genève, il y en a aussi 12. Alors il n'y a aucun rapport, enfin il n'y a pas aucun rapport, mais disons, il n'y a pas de rapport direct. D'accord. Mais là il y a 12 quartiers de Genève qui sont d'ailleurs au centre. Là on est complètement dans la zone où ça a voté oui. Tu sais, les paquis sécheront tout le centre comme ça a voté oui. Et attends, il y avait aussi Avuilly. Non, qu'est-ce que je raconte ? C'est pas Avuilly. Je vais y arriver. Saint-Jean a voté oui. Vieux-Seux aussi.
D'accord.
Donc tu vois, et Jonction aussi. Donc le centre et puis ces petites
domaines
un peu excentrés.
Alors Jonction, ça me paraît évident.
Donc 12 quartiers sur 45.
Ouais, c'est drôle.
Enfin sur, non. Bon, à Genève, je sais plus combien il y en a. Une quarantaine en tout cas.
Et donc là, selon toi, si tu prends de la distance par rapport à ces chiffres-là, là, on peut dire qu'il y a une forme géographique à Genève de... Est-ce qu'on voit les quartiers gentrifiés ? Enfin, est-ce qu'on pourrait, tu vois, faire un peu comme le dessous des cartes et reporter carte sur carte, et on y trouve des petits signes, des petits indices qui seraient intéressants.
Alors moi, j'enseigne au cycle de Sécheron, c'est au centre de la zone verte.
Absolument.
Alors je ne sais pas si c'est de la propagande qui a marché, et c'est les parents des élèves qui ont voté, je ne sais pas.
C'est vraiment l'hypercentre.
C'est autour de la gare, quoi.
Mais ça, c'est peut-être... Mais comme vous avez dit, c'est parce que peut-être que les personnes qui ont pu informer les gens se sont concentrées où il y avait une densité forte de population, parce qu'on n'a pas les moyens d'aller voir les périphéries, entre guillemets. Hein, je parle
c'est
de
aussi, c'est vrai que c'est les zones aussi où il y a des stands de Monnaie Pleine.
Mais c'est ça,
aussi,
c'est ça. C'est que vous, en fait, c'est des zones qui ont été ensemencées par rapport à d'autres, parce que c'est sûr que si tu n'as pas les moyens et qu'on est trois, on ne va peut-être pas aller à Corsier parce que...
Puis nous, on ne fait pas de la culture intensive, on fait de la permaculture, donc l'ensemencement, il se fait petit à petit.
Absolument.
Il est productif, il est localisé.
Mais c'est assez intéressant.
C'est assez intéressant. C'est vert, oui, d'ailleurs. Tu vois, ça a poussé.
C'est absolument.
Ça a poussé.
Voilà, en tout cas, on peut souhaiter que ce vert s'étende.
C'est ça. Pour la prochaine fois.
Le sens de l'histoire, c'est ça, on va dire.
D'ailleurs, oui, la prochaine fois, une des étapes prochaines, et François, c'est ce qu'il propose, c'est de réécrire la Constitution. Mm-hmm. Tu vois ?
Ouais.
On aime bien les grands chantiers.
Absolument. Bon, celui de la souveraineté alimentaire sur lequel on reviendra. Là, parce qu'on a à peine ébauché, on a dit quelques noms sur lesquels on reviendra. Je ne sais pas si on veut
peut
le faire.
On peut juste parler des prochaines votations.
Mais voilà, c'est ce que j'ai proposé.
On vient de finir la dernière. La prochaine, c'est le 23 septembre.
Voilà. Parlons de celle-là. Et puis après, on fera un spécial. Moi, j'aimerais bien refaire.
Spécial votation.
Mais oui, parce que égalité, équité, qu'en est-il ? Et si...
Tu le sais, il a été noyauté.
Ouais, mais je veux dire, des émanations, on pourrait prendre. Au moins sur des déclarations, parce que c'est important.
Notre programme, il est disponible et il est vraiment exploitable par tous ceux qui le veulent, y compris par nous. Moi, j'ai envie de continuer.
Et on y trouve des perles, c'est ça que je veux dire. Et ce serait intéressant que, en tout cas, une frange, je ne sais pas s'il faudrait la renommer du coup, mais puisse communiquer sur les votations en cours, parce que ce serait dommage de ne pas faire trésor des recherches que vous avez faites et des conclusions que vous en avez tirées.
De toute façon, ce ne sera pas perdu, parce que notre combat, il est loin d'être fini, et Gérard et moi, on va continuer quoi qu'il arrive.
Ouais.
Sous quelle bannière, je ne sais pas encore, si on garde égalité, équité ou si on change.
Ouais.
Mais,
en tout cas, nous, on trouverait intéressant, si de temps en temps, on fait une sorte de café politique radiophonique, ce serait intéressant parce que
bien sûr.
Voilà,
si tu veux, on peut. Moi, je m'engage à faire les les retours sur votation à chaque fois. Hein.
Ah bah ah ouais, ouais, ouais.
Parce que nous, ça nous permet aussi d'être informés, d'être au clair avec tout ce qu'on fait.
Ah bah,
d'être documenté.
C'est bon.
Et puis on continue ça, quoi.
Ouais, et puis éventuellement, un peu avant les votations. Enfin,
peut-être un peu avant, un peu après.
Voilà, c'est ça. Ouais, un moment de campagne, ouais. Et puis un moment de bilan, ouais, bah, bien sûr.
Ouais, ouais, complètement, alors. Donc alors, pour revenir sur les objets fédéraux, en tout cas. Il y a un premier, alors le premier arrêté, la première votation, je ne l'ai pas encore étudiée, mais c'est concernant les pistes cyclables, l'initiative vélo.
Oui, oui.
Et il y a un contre-projet qui émane du Conseil fédéral. Alors apparemment, tu vois, l'initiative en soi, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais probablement ça ne plaît pas aux dirigeants.
Non, ouais, je me suis...
Donc à mon avis, contre-projet, il doit être un petit peu dangereux, un petit peu offensif, je ne sais pas. Là-dessus, je ne me suis pas renseignée, donc je ne peux pas en dire plus.
Moi, j'ai commencé à le faire par l'entremise de ProVélo, mais on n'a pas encore complété le dossier.
On aura l'occasion d'en reparler, ouais,
absolument,
de toute façon.
Absolument.
Par contre, ce qui m'a fait vraiment, ce qui m'a appelé, c'est ce qui m'a fait tilt, c'est les deux initiatives suivantes, qui sont, la première, c'est... Donc les deux sont des initiatives populaires, hein, mm-hmm. de nouveau, de la part de citoyens et citoyennes, qui, la première, elle s'appelle « Pour des denrées alimentaires saines et produites dans des conditions équitables et écologiques ». Donc moi, ce titre, je le trouve prometteur. abrégé « Initiative pour des aliments équitables mm-hmm. ». Donc l'idée, c'est qu'on produit des aliments dans le respect de l'environnement, des animaux et des êtres humains. Alors c'est large. Hein. Et également, cette initiative s'appliquerait pour les aliments importés. Donc, parce qu'il ne s'agirait pas, tu vois, d'importer les OGM et tout ce qui contient des pesticides, et puis en même temps à obliger nos agriculteurs à être impeccables.
Et ça nous permettrait de faire le lien avec TISA, mais avec
ouais.
ses...
Ouais.
C'est ça. Le problème avec le libre-échange, c'est que c'est un petit peu
ouais.
contradictoire.
Ouais, c'est ça.
Donc, il ne faut absolument pas que ce TISA, ce traité de libre-échange, passe, quoi.
Exactement.
Ça, c'est la deuxième initiative qui sera au vote le 23 septembre. Et la troisième, c'est de nouveau une initiative populaire qui s'appelle « Pour la souveraineté alimentaire, l'agriculture nous concerne toutes et tous ». Alors là, c'est encore plus riche, divers, c'est que ça propose une production alimentaire diversifiée sans OGM, mmh. sans OGM du tout, y compris pour ce qu'on importe, donc ça c'est juste royal. Donc de la production de proximité, donc c'est ce qu'on propose avec Égalité Équité, des circuits courts, de la production locale, saine, créatrice d'emplois, avec des prix et des conditions de travail et des salaires justes, et qui favorise aussi le commerce international équitable. Une information que j'ai vue sur le site de l'initiative, c'est que deux à trois fermes disparaissent en Suisse par jour.
Ouais.
Voilà.
Sans parler des suicides, des dépressions.
Tout
à fait.
Non, parce qu'en fait, ils produisent, ça leur coûte plus cher de produire actuellement
Absolument.
Que ce qu'ils peuvent en retirer. Donc ouais. c'est même du suicide économique.
C'est
car les multinationales de l'agroalimentaire imposent des prix qui ne leur permettent pas de revenir sur leurs investissements, en fait, de financer leurs investissements.
C'est une catastrophe. On sait qu'elle est notamment portée par Unitaire et puis qu'effectivement, il y a un site internet Souveraineté Alimentaire.
Oui.
Alors, pour en...
et tout ça avec des dettes, avec
des crédits. Oui, des dettes,
accordés par des banques.
Mais des crédits créés par des banques. Donc, on ne faut plus dire accordés. D'abord, on ne dit plus prêt, on ne dit plus accordé, on dit des crédits créés par les banques.
Exactement.
Qui font ce qu'elles veulent. C'est qui demandent des intérêts.
Le champ de bataille sémantique, très important aussi.
Mais c'est ça.
Il faut tous réapproprier.
Donc les paysans sont aussi sous le joug des banques.
Ben, complètement.
En fait, on est tous sous le joug des banques, y compris des gens qui n'ont pas de crédit en cours, parce qu'il faut savoir que tous les prix qu'on paye sur tout ce qu'on achète je perds le mot.
Estampillés Non.
Non, pas estampillés, mais disons contiennent en leur sein les intérêts que l'entreprise qui a produit ses biens ou ses services doit à la banque, car elle a fait des crédits pour commencer son commerce. Donc en fait, tous les prix sont plombés par cette partie-là qu'on doit aux banques.
Ouais. On va peut-être encore rappeler quelque chose, c'est qu'on avait parlé, on a un petit podcast sur le site de Libre Radio concernant la souveraineté alimentaire, on commence à travailler avec eux, au moment, et c'est intéressant, au moment où une discussion avait eu lieu à la maison de quartier de Saint-Jean, il y a de cela, allez à la louche, un mois, où des personnes de la ZAD de Notre-Dame étaient venues pour parler justement de cette manière de faire qui nous permettrait, au travers de la solidarité et notamment très concrètement de la mutualisation de plein de choses, de produire les choses extrêmement différemment et de dire également aussi la répression qu'ils subissent. Et on l'a encore vu récemment.
On l'a vu à Notre-Dame-des-Landes. Hein.
Voilà, que dès que des choses extrêmement viables et au bout du compte assez simples sont mises en place.
Et donc menaçant cette société de consommation et
le modèle occidental. Et c'est plutôt que de laisser un laboratoire se produire en disant tiens, observons, eh ben on va vraiment les démolir, on va les éradiquer, parce que c'est ça.
Ça, je trouve que c'est un marqueur de l'intention qui est loin d'être bienveillante des autorités qui disent vouloir protéger la population, vouloir le bien de leurs électeurs, de leurs citoyens, qu'ils appellent des consommateurs d'ailleurs, c'est peut-être pas pour rien. Là, on voit clairement que c'est pas le cas. Parce que des modèles qui marchent, pourquoi les détruire à ce moment-là?
Absolument.
Et pourquoi tuer des gens même qui manifestent?
Ouais.
Avec des grenades qui ne sont pas autorisées en plus. Si ce n'est pas de la malveillance, il faut juste qu'on m'explique ce que c'est.
La main arrachée encore tout récemment, enfin, je veux dire, c'est des mutilations,
c'est
des armes qui sont même interdites en conflit, qui sont utilisées pour le maintien
pour
de l'ordre.
La répression,
c'est un truc hallucinant.
Des manifestations quoi, et des manifestants.
Alors, le mot de la fin. Pour en terminer pour aujourd'hui, en se donnant rendez-vous justement pour les prochaines. Voilà, et c'est sans faute.
Alors,
par quoi aimeriez-vous terminer doucement?
Moi, j'ai deux choses à dire. C'est que on a gagné quelque chose avec cette initiative. On a gagné la bataille de l'information contre le tabou. Donc maintenant, la boîte de Pandore est ouverte, les secrets sont révélés. Ce sont les banques qui dirigent le monde. Et pourquoi? Parce qu'elles créent la monnaie, elles créent l'essentiel de la monnaie. D'accord? Ça, c'est la bataille qui est gagnée. Pour moi, ça, c'est gagné.
On va rappeler d'où vient Macron, justement, du coup.
Macron, il vient de la banque Rothschild.
Voilà, et on va
il
même
a
pas...
été financé par ces milieux-là qui ont créé de la monnaie à partir de rien. Et donc, qui mettent en place le pantin idéal qui va pouvoir permettre à ces gens-là de prospérer, de continuer à piller les ressources et à endetter la terre entière.
Et on a des équivalents à notre conseil fédéral, pour faire rapidement, pour dire que la collusion et l'influence... Voilà.
C'était est bien maintenu, se porte bien.
Que la cour, ouais, tout à fait. Ouais.
Après, peut-être Gérard a quelque chose à dire, mais moi j'ai encore quelque chose à dire après.
Non, vas-y.
Alors, j'ai quatre livres à recommander, je les recommande à chaque fois,
vas-y.
De plus en plus. Le premier, c'est Les secrets de la monnaie de Gérard Fouché, qui explique justement la création monétaire, bien que maintenant il n'y ait plus tellement besoin de l'expliquer puisque on est tous au courant, mais pour approfondir les connaissances, donc Les secrets de la monnaie de Gérard Fouché. Il y a l'indispensable pavé sur la dette et les mensonges, disons, sur l'économie, sur le troc notamment, sur l'économie qu'on attribue à Adam Smith, qui est en fait pas du tout comme ça. Il y a eu plein de mensonges qui ont été dits à ce propos, qui s'appelle « Dette, 5000 ans d'histoire » de David Graeber.
Ouais.
Alors c'est écrit en tout petit, il faut un petit peu s'accrocher, il faut le faire en plusieurs étapes, mais vraiment il est à lire. Et si vous n'avez pas envie de le lire, il y a un site Martouf, de Martouf le synthéticien, c'est Mathieu qui est avec nous aux actionnaires, qui a fait une synthèse. Donc vous tapez Martouf, dette, 5000 ans d'histoire, et puis vous tombez sur son site. Ensuite, un autre livre, c'est Les secrets de la réserve fédérale de Eustache Munins, qui explique donc la création de la réserve fédérale, donc la banque centrale américaine en 1913, qui a été justement votée le 23 décembre, quand il n'y avait plus personne dans les parlements, évidemment, mais c'est toujours comme ça.
Ouais, ça aussi.
Et puis je suis en train d'essayer de me rappeler le quatrième, essentiel aussi pour comprendre l'endettement des pays qu'on dit pauvres, alors que pour moi c'est des pays riches, les pays du tiers-monde, c'est Les confessions d'un assassin économique, c'est la nouvelle version. Avant ça s'appelait Les confessions d'un assassin financier, et maintenant c'est Les confessions d'un assassin économique, qui en fait c'est Joe Perkins, ou John Perkins, je ne sais jamais. Non, je crois que c'est Joe Perkins, qui a exercé le métier d'assassin. Il s'appelait comme ça, hein, assassin économique, en fait, Economic Hitman en anglais, dont le boulot consistait à aller dans les pays avec des ressources, donc Amérique du Sud, Afrique, Asie, pour corrompre les dirigeants des pays et de manière à les endetter avec l'argent qui est créé par les banques, donc on revient à la source, à vie. Et de faire en sorte qu'ils ne puissent jamais rembourser ces dettes pour que les banques puissent se faire une rente durant des générations et des générations. Seulement la rente, mais en plus puissent les obliger à couper dans leurs services publics, à empêcher l'éducation des gens, à casser l'emploi, pour qu'ils puissent absolument jamais se développer et rester dépendants à vie de la mafia. Et alors attends, pas ça, c'était l'assassin financier, l'assassin économique, mais ensuite, si l'assassin économique ou financier n'arrivait pas à ses fins, il y avait ce qu'il s'appelle les chacals, donc c'était les assassins tout court, qui étaient censés assassiner, mais ça c'est officiel, hein, les gens, donc les dirigeants qui n'étaient pas d'accord de plier au diktat américain, parce qu'à la base c'était pour se soumettre aux États-Unis, hein. C'est vraiment comme ça que c'est dit. Hein.
Okay.
Et puis enfin, la troisième étape, s'ils n'arrivaient pas à tuer le bonhomme, ils faisaient une guerre. comme ce qui s'est passé en Irak. Il décrit exactement la situation avec Saddam Hussein et l'Irak. Et en fait, en Irak, il y a eu les trois étapes. Il y a eu l'étape des assassins économiques, puis l'étape des chacals. Ils n'ont pas réussi à le tuer, donc ils ont fait la guerre. Donc c'est l'armée, le dernier ressort. Ouais. Alors après, on comprend les budgets faramineux et les fantasques qui sont attribués à l'armée. Hein.
Ah bah c'est clair.
Et je me réjouis de lire le livre.
Moi, je l'ai commencé, mais on l'a tous les deux.
Ouais, bon, en tout cas, on a
c'est vraiment
noté
les quatre bouquins de référence.
On a bien noté les références. Le jour où des lanceurs d'alerte et des historiens, etc., pourront, des économistes en Afrique pourront, il y a des choses à lever là-bas depuis Sankara et même avant, où les gens sont systématiquement assassinés.
Il y a une soixantaine, je crois, de dirigeants africains qui ont été assassinés depuis les années 50.
Et récemment encore, Bolloré.
on pourrait durer des heures. Heureusement, lui, je sais pas où ça en est, mais il a été.
Il est incarcéré normalement.
Il est incarcéré.
Non, pardon, c'est pas vrai.
Il a été.
Il n'a pas été incarcéré. On lui a prononcé sa mise en accusation, mais on l'a laissé dehors.
Mais comme d'habitude, peut-être, il va s'en sortir avec les honneurs du jury. Excusez-le, il savait pas ce qu'il faisait.
Alors qu'il a des réseaux en Afrique. Mais c'est bon. Bref. On pourrait terminer par...
J'allais dire que pour l'été, on a quand même deux activités en commun. Une, c'est de la nourriture saine avec
Irène
Grosjean.
C'est manger vivant, la nourriture vivante avec Irène Grosjean.
Très bien. Atelier, certainement.
Et la seconde, c'est en août, c'est l'université marxiste européenne.
Alors ça, je ne sais plus si c'est européenne. Moi, j'ai juste noté les
Belgique.
Universités
marxistes. Ah, et ouais. Voilà, c'est une semaine intense
de convergence de lutte
pour comprendre un petit peu.
On verra à quel point ils sont ouverts ou à quel point ils sont endoctrinés. Voilà.
D'accord. Dans la Belgique francophone ou néerlandophone?
Je ne sais plus, c'est toi qui as fait la réservation.
Ouais,
c'est francophone.
Je ne sais plus la ligne.
Je dis ça parce que voilà, les gens. Enfin, c'est vrai que si ça parle français.
Mais si tu veux, on pourrait te donner le lien et puis tu peux le mettre dans le descriptif.
Nous, on est toujours de toute façon intéressés par ce genre d'initiative.
Voilà. Donc on aura des retours d'été avec des choses à raconter.
Irène Grosjean, elle est en France, si jamais à Gravezon, c'est à 4 heures enfin, d'ici à peu près, 4-5 heures d'ici.
Et puis une université d'été, j'allais dire...
Le CADTM ?
Ouais, voilà.
Alors on le fait, c'est une fois tous les deux ans.
L'année dernière,
on y était.
Okay, ouais.
Cette année, il n'y a pas, puis l'année prochaine, probablement.
D'accord, ouais, parce que ça aussi, c'est...
Alors ça, c'est génial, c'est complémentaire.
Non, mais en fait, il y a eu, mais je crois que c'est déjà fait. Ils étaient en avance sur le...
Mais alors, il y a chaque année, tous les deux ans ?
Oui, je pense que c'est chaque année, mais cette année, c'était tôt, c'est trop tôt pour nos activités.
Je
ne
peux pas avoir de vacances en dehors des vacances scolaires. Donc,
Bon, mais qu'on arrivera à en reparler.
Le CADTM, pour rappeler, c'est le actuellement, c'est Comité d'abolition des dettes illégitimes, donc qui a étudié tout le phénomène de l'endettement forcé dont je parlais avant. Par contre, ils n'entrent pas tellement en matière sur la création monétaire, donc on se fait un plaisir de leur rappeler que les banques créent l'argent à partir de rien, et puis, je ne sais pas, ils ne rebondissent pas. Ce qu'on a cru comprendre, c'est qu'Éric Toussaint, le coordinateur du CADTM, a peut-être eu des pressions pour ne pas trop développer le sujet, vu qu'il est financé par peut-être des organisations qui mangent à la soupe aussi. Je ne sais pas.
Okay.
C'est à creuser.
OK. Bon.
Mais en joignant les points...
Des fois, les gens qui pensent beaucoup ont de la peine, des fois, à changer de point de vue. Et la création monétaire, c'est un peu trop moderne pour eux, peut-être.
Mais ça viendra.
Ça viendra. Franchement, avec ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, aujourd'hui... Avec
t'as
les
vu
personnes
l'avancée
qui ont...
en quelques années, là.
Ben, c'est ça, c'est quand même impressionnant. Et puis attention, le RBI n'est pas loin, le salaire à vie n'est pas loin.
C'est ça. Après, il y a Frio qui arrive avec le salaire à vie.
Exactement.
Le troisième volet, tu sais, hop là.
Et là, ce sera peut-être le bon moment pour déclencher quelque chose de... un bouleversement de toute façon.
Avec des choses qui se passent en Italie, avec, etc. Ouais.
Tout à fait.
C'est vrai qu'il y a quand même de l'espoir à ce niveau-là, malgré le gars du FMI qui a été propulsé contre l'avis du peuple. Quoi. Encore un exemple de démocratie bafouée. Mais,
Mais au bout du compte, c'est pas si mal, parce que de plus en plus, les gens justement s'aperçoivent de l'imposture et puis s'en détachent.
Oui.
Et on va se retrouver tous détachés de ce machin.
Ouais.
On sera tellement détachés de ce truc de par lui-même.
On n'aura plus besoin de changer quoi que ce soit. On aura déjà rendu obsolète le système en faisant autre chose. Tu vois.
Franchement, en tout cas, ce serait pas mal.
Alors,
on va terminer en disant méfiez-vous des gens qui disent qu'ils vous veulent du bien.
Pensez par vous-même. Moi, c'est ce conseil que je donne.
Il faut absolument
votre avis. Ne nous croyez pas sur parole. Ouais. Allez vous faire votre idée. Lisez.
Démultipliez les sources.
Croisez les infos, etc.
Absolument. On se laisse sur ça ?
Ouais.
C'est
ouais,
pas mal.
Bravo.
Bon.
Merci.
Alors, bah non, merci à vous. Gérard, Chloé, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Hein. On va le rappeler, vous avez différentes casquettes, notamment les AAA+,
le comité Stop Tisa.
Stop Tisa.
Le CADEJ qu'on a un peu laissé tomber pour l'instant parce qu'on est débordé par d'autres
pour
choses.
La ouais,
pour l'audit,
l'audit,
de la
l'audit de
la dette.
Voilà.
On est aussi dans l'association le 11 septembre en question.
Ok, ouais, il y a un paquet de trucs. Là. Et puis, toutes ces choses-là, il suffit de les mettre hein, sur un moteur de recherche et on trouve les sites typiquement.
Vous tapez nos noms, quoi. Mais bon, je pense que dans le podcast, vous serez.
Non,
qui seront inscrits.
Oui, oui, puis on met en général la série. De...
Ah, peut-être la dernière info sur Tisa, là. La petite brève, les panneaux zone hors Tisa du Grand Saconnet ont été posés il y a un mois et on a fait les photos la semaine dernière.
J'ai vu les photos.
Ça, c'est la dernière actualité concernant Tisa.
D'ailleurs, il y avait également un représentant politique avec vous, non ? Un vert ou un socialiste ?
Il y avait Pierre Eckert des Verts et il y avait Michel Pomato du PS et puis je ne sais plus son prénom.
Le président du PS Grand Saconnet.
Bon, c'est-à-dire que là aussi, un espoir nous est permis.
Excuse-nous à l'avance. Ouais, bon. On se rappelle plus de ton prénom.
Comprendra. Et puis il y avait
Philippe.
Bah oui, c'est
Philippe,
c'est ce que j'allais.
Bien sûr.
Comment salut, où es-tu
Philippe? Et son
ambassadeur,
tout terrain, qui n'a peur de rien. Non, franchement,
peur de
moi,
rien.
C'est vraiment spécial
on
big up à Philippe.
Voilà,
parce que, alors,
on lui fait un clin d'œil. Parce que
ça,
il
c'est quelqu'un de courageux.
Ouais. Donc il a, en deux mots, hein, il a mis sur son taxi plein de belles choses, plein de beaux messages. Il est extrêmement inquiété.
Taxi Genevoise au Nortiza, initiative Monnaie Pleine,
équité, égalité, équité, monnaie de... Mais finalement, il a le droit aussi.
Mais écoute, c'est la liberté d'expression dans De Bleu.
Il subit depuis les foudres du petit Napoléon local.
C'est
en tout
ça,
cas, hein.
C'est le cousin c'est germain de Macron, qui est aussi au Bilderberg, qui a fait partie
absolument
du groupe Bilderberg, etc.
Donc Philou, si tu nous écoutes, eh bien, on
merci
te salue.
Merci à toi,
et puis,
bravo.
Solidarité.
Et on
et puis
est avec
on,
toi.
Ouais. Très bien. Alors, on va souhaiter une bonne soirée et puis on va se dire à
et
bientôt.
Merci à toi, oui.
Avec
merci
plaisir.
À Sarah.
Nous, c'est toujours un plaisir.
Merci à toute l'équipe. À bientôt.
À bientôt. Voilà. Alors, nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, nous étions à la Maison de Quartier des Paquis. On salue aussi toute l'équipe de la MQ des Paquis et les personnes de La Traverse. Le concert de Gibson Five va se terminer sous peu. Ensuite, ce sera le film dont le nom m'échappe maintenant. Oui, c'est Mon Oncle de Jacques Tati. Et on se retrouve pour le direct de samedi. Nous serons samedi prochain à La Ville est à vous, à Saint-Jean. Libre Radio, c'est www.libradio.org. info@libradio.org, podcast, etc., archives sonores. Tout ça, c'est sur le site. Ciao.